BFM Business présente votre rendez-vous de référence de la fin de journée avec la grande interview des acteurs de l'actualité économique et politique. Et avec les experts du soir, débat sans concession autour des sujets du jour. Good evening business. Guillaume Paul.
Allez, 18h, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM Business. Dans l'actualité ce soir, c'est un petit peu la douche froide parce que non seulement Bruno Le Maire l'a confirmé, nos déficits devraient être plus élevés que prévu à la fin de cette année, mais en plus, il va falloir trouver 10 milliards d'euros encore, 10 milliards supplémentaires en plus de ce qui avait déjà été annoncé, ne serait-ce que pour limiter la casse. Mais Thomas Asportas va leur donner tous les chiffres, bien sûr, dans un instant. Sinon, on parlera de cette négociation sur l'emploi des seniors qui a donc capoté la nuit dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui peut se passer désormais? On posera la question à Karine Morisseau dans un instant. Et puis, on s'exprimera sur la petite phrase du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui a dit tout simplement ce matin vouloir, je cite, « lever le tabou du licenciement dans la fonction publique », phrase qui a suscité énormément de commentaires. On parlera tout ça entre autres avec nos experts qui arrivent à partir de 18h30 et puis auparavant 18h15, c'est Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL, qui sera l'invitée d'Eddie Chevrillon. Voilà le programme non exhaustif, on est ensemble jusqu'à 20h.
Good evening business, le journal.
Donc nous voilà fixés sur la nouvelle trajectoire budgétaire de la France d'ici 2027. Bruno Le Maire a revu sa copie ce matin. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Guillaume.
Donc on se résume. À la fin de cette année, nos déficits devaient se lever à 4,4% du produit intérieur brut. Ça sera 5,1%. Et encore pour y arriver, il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires, c'est ça Thomas, finalement.
Exactement, qui s'ajoutent aux 10 milliards qui ont déjà été annoncés en février. Donc ça fait 20 milliards au total pour tenir un objectif de déficit à peine au-dessus des 5% de déficit pour cette année, après 5,5% l'année dernière. Donc c'est quand même pas très glorieux tout ça. Ça fera de la France le pays qui a le plus lourd déficit des grands pays de la zone euro, juste derrière l'Italie. Et comme si ça ne suffisait pas, il va falloir faire vraiment de très gros efforts d'économie pour tenir ces objectifs plus glorieux. Vous l'avez dit, 10 milliards déjà annoncés en février. 10 milliards supplémentaires, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc en fait, on n'était qu'à la mi-temps en février. Il va falloir faire deux fois plus d'efforts. Dans le détail, Bercy a expliqué comment allaient être composés ces 10 milliards d'économies supplémentaires à aller chercher. On a 5 milliards dans les administrations de l'État. Le ministère a donné des pistes. Il a parlé de l'immobilier de l'État. Il a reparlé du compte personnel de formation, ou encore des opérateurs de l'État. On a aussi 2,5 milliards qui vont être cherchés dans les dépenses des collectivités locales. Il leur a donné un objectif, c'est de plafonner la hausse des dépenses des collectivités à 0,5 points en dessous de l'inflation. Et enfin, 2,5 milliards via la taxation des rentes, ça c'est le sujet qui monte. Deux pistes sont déjà sur la table, au moins 1 milliard à aller chercher auprès des énergéticiens et la taxation des rachats d'actions.
Bon, donc on comprend que ça va être très tendu pour l'an cette année. Est-ce qu'à partir de l'an prochain, ça va commencer à se détendre un petit peu quand même?
Alors, dans ce nouveau tableau, dans ces nouvelles hypothèses, ce ne sont que des hypothèses, on a un déficit qui baisserait à 4,1 l'an prochain. Donc un point de déficit en moins en un an, c'est très ambitieux pour dire le moins. On serait ensuite à 3,6 en 2026 et enfin 2,9 en 2027. Donc vous voyez que ça descend quand même très vite tous les ans. Il va falloir réussir de grosses performances budgétaires pour tenir cette trajectoire. Et pour y parvenir, le gouvernement compte beaucoup sur le retour de la croissance après le creux de l'année dernière et de cette année. Bercy dit voir déjà des premiers signes de reprise depuis le début de l'année. On nous dit que le crédit immobilier est en train de repartir. La chute de l'inflation ou encore le moral des ménages et le climat des affaires qui se redressent, tout ça devra entraîner la reprise de la consommation des ménages et d'investissement des entreprises et donc fait dire à Bercy que l'activité va repartir, que la croissance va accélérer à 1,4 l'année prochaine, 1,7 en 2026, 1,8 en 2027. C'est le nouveau scénario macroéconomique que Bercy va vendre au marché, aux agences de notation et à la Commission européenne dans les prochaines semaines.
Les agences de notation qui parlent dans une dizaine de jours pour les premières.
Exactement.
Donc, effectivement, ça arrive très très vite. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, ça devait arriver à quelques semaines du début des Jeux Olympiques. La CGT a confirmé qu'elle avait déposé des préavis de grève dans la fonction publique. Ils vont s'étirer de lundi prochain, 15 avril, au 15 septembre prochain, jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. La CGT dégaine car elle estime qu'il n'y a pas assez de mesures compensatoires pour les agents qui seront mobilisés cet été. Peut-être a-t-elle été aussi un petit peu irritée par les propos du ministre de la fonction publique Stanislas Guérini qui a déclaré ce matin qu'il voulait, je cite, « lever le tabou du licenciement dans la fonction publique ». Petite phrase qui a fait beaucoup réagir. On en reparlera bien sûr longuement ce soir avec nos experts. Et puis l'autre gros sujet dont on doit reparler ce soir, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Il n'y a pas eu d'accord entre syndicats et patronat sur le dossier de l'emploi des seniors. On s'est quitté un peu avant 3h du matin. Écoutez ce que disait ce matin le patron du MEDEF, Patrick Martin. Pour lui, il n'y avait clairement pas la place pour un accord.
n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que, en particulier, la CFDT FO, avec qui nous avons une bonne relation, hein, je tiens à le dire, on n'est pas du tout dans un pugilat, hein, ont, dans la dernière ligne droite, beaucoup insisté pour que soient améliorés ou aménagés les régimes des retraites progressives. Il se trouve que la lettre de cadrage que nous avait imposée le gouvernement interdisait toute dépense supplémentaire. Or, ce dispositif, si on avait donné suite aux demandes donc de ces deux organisations syndicales, ce dispositif aurait généré des surcoûts. Donc c'était inconcevable. Donc voilà, cette négociation n'aboutira pas.
Voilà, Patrick Martin ce matin devant le Sénat. Bonsoir Caroline Morisseau. Première question, qu'est-ce qui a bloqué pour qu'on aille dans le
monde ? Tout a bloqué en fait. Les syndicats ont considéré que le texte était trop déséquilibré pour parvenir à un accord.
Pour parvenir à un accord, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Oui, la conséquence, c'est qu'en fait, cet échec de la négociation sur les seniors risque d'avoir une conséquence sur un autre accord, celui sur l'assurance chômage, parce que les deux sujets sont directement liés. En fait, pour bien comprendre, il faut remonter à novembre dernier. À ce moment-là, les partenaires sociaux avaient conclu un accord sur les nouvelles règles d'assurance chômage, et les syndicats, dans cet accord, se sont engagés à décaler 2 ans toutes les bornes d'âge liées à l'indemnisation des seniors, avec à la clé 440 millions d'euros d'économie. Mais à une condition, d'obtenir des contreparties sur l'emploi des seniors. Donc la mesure a été mise entre parenthèses jusqu'à ce que la négociation sur les seniors se passe. Derrière, le gouvernement a du coup décidé de ne pas valider l'accord assurance chômage tant que les économies promises n'étaient pas au rendez-vous. Problème, faute d'accord sur les seniors, les syndicats vont très probablement refuser de décaler de 2 ans tous les avantages liés aux seniors. Alors rien n'a encore été officialisé, la CFTC, FO et la CFDT qui étaient signataires de cet accord inédit doivent réunir leurs instances pour décider de la suite des événements, mais si c'est le cas, s'ils refusent de valider cette mesure sur les seniors, si les économies ne sont pas au rendez-vous, le gouvernement va lui aussi très probablement refuser de valider l'accord sur l'assurance chômage qui lui permettra de reprendre la main encore plus vite que prévu et d'adresser très rapidement une lettre de cadrage et de repartir de zéro avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Donc on le dit, 8 mois de négociations quasiment pour rien.
Voilà, ça, ils viennent de passer 8 mois à négocier pour rien.
Et négociation qui s'est terminée donc à 3h du matin quasiment.
Exactement.
Au siège du MEDEF. Merci beaucoup Caroline. Caroline Morisseau avec nous sur BFM Business. 2 mots avant d'aller sur les marchés. D'abord, une mauvaise nouvelle pour Vinci. D'après l'agence France Presse, la justice a rejeté sa demande d'indemnisation après l'abandon du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le groupe réclamait près d'1,6 milliard à l'État, mais toujours d'après ces infos, la justice ouvre quand même la voie à une indemnisation de résiliation dont le montant sera fixé ultérieurement. Et puis la Chine, on s'en doutait, la Chine n'a pas vraiment apprécié. Vous savez, la décision de Bruxelles, on en parlait hier, d'ouvrir une enquête sur les subventions dont bénéficieraient les géants chinois de l'éolien. Le monde s'inquiète des tendances protectionnistes croissantes de l'Union européenne. Voilà ce qu'a déclaré tout à l'heure un porte-parole de la diplomatie chinoise. 18h08, on va sur les marchés. Étienne Brack, Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, comment ça s'est passé ce mercredi à la Bourse de Paris ?
Eh bien écoutez, c'était une séance agitée puisque vous avez un CAC 40 qui a perdu quasiment 1% en début d'après-midi avant de finalement clôturer stable au-delà des 8000 points. Agité à cause notamment des chiffres d'inflation aux États-Unis qui étaient très attendus et qui sont ressortis légèrement au-dessus des attentes avec une inflation le mois dernier qui est ressortie en hausse de 3,5% sur un an. Et hors énergie, hors alimentation, eh bien cette inflation elle est encore plus importante à 3,8% alors que le consensus s'attendait à 3,7%. Suite à cela, vous avez un 10 ans américain qui revient sur ces niveaux de novembre dernier pour la simple et bonne raison que le marché est en plein doute. Est-ce que la Fed va vraiment baisser ses taux comme prévu en juin prochain, sachant que l'inflation est plus forte qu'attendue ? Selon les analystes, non, puisque les 2/3 des analystes estiment que c'est mort désormais. Il n'y aura pas de baisse des taux au mois de juin, donc forcément le marché corrige. Vous avez Wall Street qui perd un peu plus d'1%. Parmi les valeurs marquantes de cette séance, à le souligner, Atos qui perd à nouveau 10% comme hier avec le plan de refinancement qui a du mal à être digéré par les marchés. 1,78€ quasiment sur des plus bas historiques. Et puis à l'inverse, ça va bien pour Air France qui gagne quasiment 3%. Alors là aussi, on a une valeur qui est sur des plus bas historiques mais qui se reprend aujourd'hui avec les résultats de Delta Airlines qui sont ressortis supérieurs aux attentes aux États-Unis. Et donc l'indice parisien qui clôture stable ce soir au-delà des 8000 points, mais de justesse à 8045 points.
Merci beaucoup Étienne. On regarde rapidement ce qui se passe à Wall Street à la mi-séance. Le Dow Jones qui perd 1,3%, 38 382 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui perd 1,1%, 16 124. 18h10 sur BFM BFM Business, Marie-Laure Denis, la présidente de la CNIL. Et l'invité d'Edwige Chevrillon, c'est la grande interview dans un instant. À tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, je reçois la gardienne de nos libertés, des libertés publiques. Bonjour Marie-Laure Denis.
Bonsoir Edwige Chevrillon.
Merci d'être avec nous. Vous êtes présidente de la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est vous qui regardez un petit peu tout, savoir s'il n'y a pas des fake news pour les élections européennes, des problèmes de vidéosurveillance, on en dirait un mot, question de sécurité pour les Jeux Olympiques, question évidemment sur toutes les cyberattaques. Et là, j'ai beaucoup de questions pour vous. Et quoi d'autre encore? Et puis bien sûr, l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut contrôler l'usage de l'intelligence artificielle et surtout avec nos données personnelles, quel rôle peut jouer la CNIL? Vous voyez, si j'ai beaucoup de questions. On commence peut-être par les élections européennes, parce que là, on en parle beaucoup, c'est le 9 juin prochain. Il y a beaucoup de tentatives de déstabilisation. En tous les cas, c'est ce que dit le président, le Premier ministre. Qu'est-ce que vous pouvez faire?
Alors, la CNIL...
Qu'est-ce que vous faites?
Voilà, la CNIL se préoccupe notamment de la prospection politique illégale, c'est-à-dire très concrètement les appels intempestifs que vous pouvez recevoir sur vos téléphones ou des SMS à partir de données pour lesquelles vous n'avez pas donné votre consentement, notamment pour qu'elles soient utilisées à des fins de prospection politique. En 2022, pour les élections présidentielles et législatives, on a reçu 3200 signalements, très concrètement. Je pense même que lorsque les données ne sont pas utilisées de façon légale et qu'on ne permet pas à la personne à qui on adresse des messages de prospection politique de s'opposer à la réception de celle-ci, je pense même que c'est contre-productif. Et j'ai écrit d'ailleurs à tous les partis politiques, à tous les candidats pour les élections européennes, et nous contrôlons naturellement en temps réel ce qui se passe.
Mais est-ce que vous observez déjà des tentatives de déstabilisation ou pas?
Alors, c'est davantage l'ANSSI et,
oui, bien sûr.
Et Viginum, qui est un service à part entière de l'État, qui se préoccupe des ingérences étrangères également. Ça participe effectivement, comme vous l'avez dit, d'un climat qui peut être un climat de déstabilisation des élections. On l'avait vu il y a quelques années, notamment avec l'affaire Cambridge Analytica, des données compromises d'utilisateurs de Facebook, de 87 millions d'utilisateurs de Facebook, qui avaient été utilisées pour influencer les élections américaines et le Brexit.
On va revenir dans le détail, mais juste quand même plus que par curiosité, par intérêt. Quelle est l'application, le réseau social qui est le plus, à vos yeux, qui est le plus dangereux par rapport à nos données personnelles? Facebook?
Je ne me permettrai pas d'identifier ou de pointer du doigt un réseau plutôt qu'un autre. En tout cas, je constate que depuis la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données, ce règlement européen qui protège nos données depuis 5 ans, je constate que ce qu'on appelle les GAFAM, en quelque sorte, viennent voir les autorités de protection des données, parce que c'est en gros, il y a quand même une réglementation qui s'applique, qui protège nos données dans 27 pays de l'Union, et ça a pu faire modifier les pratiques des GAFAM. Nous, on l'a fait sur les cookies, par exemple, les traceurs publicitaires, pour pouvoir les refuser dès le premier écran et pas être obligé de les accepter, aller au troisième écran et passer 5 minutes pour les refuser à chaque fois.
Ça devient très, très compliqué, parce qu'à chaque fois,
ça nous a pris deux ans.
Oui, mais nous, en tant qu'utilisateurs, on finit presque par regretter le système d'avant. Hein.
Si je peux me permettre, il y a un petit continuer sans accepter maintenant, en général, devant chaque premier écran lors de votre navigation Internet, qui permet quand même de refuser. Et ça vous donne de la transparence quand même sur l'utilisation des données et des moyens de contrôle. C'est ça le travail de la CNIL, par exemple.
Alors, autre travail de la CNIL, c'est, enfin, autre actualité très forte, évidemment, les Jeux Olympiques, avec cette question sur est-ce qu'on peut combiner liberté et sécurité. Ça c'est votre job, Marie-Laure Denis. Il y a la question des vidéosurveillances avec les reconnaissances faciales. La vidéosurveillance, vous êtes pour. La reconnaissance faciale, vous êtes contre, sauf à un moment pour les Jeux Olympiques. Mais par exemple, il y a la ville de Nice qui veut exploiter ça à fond. Et puis vous lui dites, ah non, stop, c'est pas possible. Alors expliquez-nous quelle est votre ligne de crête entre sécurité donc et liberté.
C'est tout, vous l'avez très bien dit, c'est tout le travail d'équilibriste, en quelque sorte, de la CNIL, d'essayer de concilier des objectifs qui sont tous les deux légitimes. La sécurité publique d'un côté, et chacun comprend que pour un événement aussi exceptionnel que les Jeux Olympiques, il y ait des mesures exceptionnelles qui puissent être prises. Et en même temps, dans l'espace public, s'exercent des libertés publiques, le droit de manifestation, le droit de culte, quand on va dans un lieu de culte, le rentrer dans un parti politique, etc. Tout ça, ça peut se voir avec des caméras de vidéosurveillance. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Je voudrais déjà préciser que ce n'est pas la CNIL qui fixe les règles. C'est vraiment le législateur, en l'espèce pour les Jeux Olympiques. En reprenant les préconisations qu'avait faites la CNIL et que le gouvernement a reprises également, le législateur, qui a beaucoup positionné la CNIL sur ces sujets, a décidé, pour la première fois en France, d'utiliser des caméras dites augmentées. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de la reconnaissance faciale, il ne s'agit pas d'identifier une personne, mais il s'agit de détecter 8 cas d'usage pour aider les forces de l'ordre à prendre une décision.
Ça pourrait conduire à la reconnaissance faciale.
Alors très clairement, une des garanties apportées dans le cadre de cette expérimentation, c'est qu'il n'y ait pas de reconnaissance faciale. C'est le législateur qui...
Ce serait pas la grande facilité quand même d'avoir cette reconnaissance faciale.
Je pense qu'il faut être très
surtout avec toutes les menaces qui pèsent là. Ce soir, il y a le match PSG-Barça. Le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin lui-même, a dit qu'il y avait des questions de sécurité. Donc, on se dit, ça serait quand même beaucoup plus facile, sûr pour tout le monde.
D'abord, là, c'est une expérimentation, ce qui passe avec les caméras augmentées. C'est déjà donc de l'intelligence artificielle embarquée sur les caméras pour aider les forces de l'ordre à prendre des décisions. Faisons déjà l'évaluation de cette expérimentation. C'est pas neutre d'utiliser de la reconnaissance faciale parce qu'il y a des biais en plus. C'est-à-dire qu'on peut vous arrêter parce que on vous a confondu avec quelqu'un d'autre. Ce sont des systèmes probabilistes, je ne vais pas rentrer dans des détails, mais qui génèrent beaucoup de biais en fonction de la façon dont ils ont été entraînés. Donc, d'ailleurs, je constate que c'est le législateur, je le répète, et pas la CNIL, qui ne souhaite pas utiliser de la reconnaissance
faciale. Mais en même temps, est-ce que vous ne trouvez pas, vous, justement, que cette combinaison sécurité-liberté, il faut peut-être le rééquilibrer un peu, c'est-à-dire vraiment la protection de données personnelles, mais en même temps il y a des grands risques de sécurité qui, je dirais, n'étaient pas aussi forts ces dernières années.
Écoutez, ni le gouvernement ni le Parlement, d'accord, qui ont souhaité quand même, ce qui est déjà un premier pas inédit jusqu'à présent, d'utiliser de l'intelligence artificielle pour détecter des comportements suspects, et ce qui aide les forces de l'ordre, parce qu'il n'y a plus de limite humaine, il n'y a plus la limite de l'œil humain pour la caméra. Si vous êtes devant 500 caméras, c'est difficile de tout contrôler. Ouais. Avec de l'intelligence artificielle et les caméras augmentées, c'est la machine qui va vous dire « regardez ici, faites ceci, envoyez une patrouille, etc. »
C'est formidable, voilà. J'ai envie de dire.
Donc, ça peut être très utile, mais il faut l'évaluer, parce que si vous sortez un parapluie et qu'on considère que c'est une arme parce qu'il y a eu un biais, c'est pas nécessairement formidable. Donc tout ça se teste.
Il y a combien de caméras comme ça? C'est juste, je sais pas si vous avez le
j'ai
le
pas
chiffre.
Le nombre non, exact.
Je sais que ça ne dépend pas de vous. C'est juste au cas où on vous arrête de donner le chiffre. Toutes les cyberattaques, là, ça terrifie un peu les Français, parce qu'on les a vues sur France Travail, pour l'Expo l'Emploi. On a vu sur les hôpitaux aussi. On a vu sur plein de domaines qui nous concernent, nous, sur des mutuelles, sur des entreprises. Est-ce que vous avez cette augmentation des cyberattaques? J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Pourquoi vous les empêchez pas? Comment peut-on se protéger? Vous voyez?
Alors, les cyberattaques ont augmenté de 30% l'année dernière. Elles ciblent majoritairement les PME et les TPE pour 35%, donc un gros tiers, les collectivités locales pour un quart d'entre elles, et les hôpitaux, vous en parliez, les établissements de santé d'une façon générale pour 10%, avec une forte augmentation, avec le risque de la perturbation de la continuité des soins, indépendamment de la dissémination de données très sensibles, personnelles, etc. Ouais. Donc c'est un vrai fléau. La CNIL, qui agit pas toute seule sur ces sujets, parce qu'il y a aussi l'agence des sécurités, des systèmes d'information, le groupement cybermalveillance.group.fr dont nous faisons partie. La CNIL, elle agit de plusieurs façons. D'abord, en sensibilisant les particuliers, parce que la CNIL est perçue comme étant le gendarme de la protection des données, mais elle fait beaucoup d'accompagnement. Donc, très concrètement, on sensibilise les individus. Par exemple, vous allez sur le site de la CNIL, vous avez un générateur de mots de passe. Je peux vous dire comment doit être un mot de passe robuste, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. On sensibilise les professionnels. On vient d'actualiser notre guide annuel. Il y a 25 fiches, 60 pages pour tous les professionnels, pour par exemple tracer ce qu'on appelle la journalisation, l'accès au système d'information, c'est un exemple parmi d'autres. On contrôle. Les deux tiers de nos sanctions comportent des manquements à la sécurité des données, parce que c'est un peu ça, la protection des données. On sensibilise, il y a de la responsabilisation et on peut sanctionner. On a par exemple, il y a deux ans, prononcé une amende d'1,5 million d'euros contre une société qui édite des logiciels pour des laboratoires médicaux et avec des défaillances qui ont conduit à mettre dans la nature des données de santé de 500 000 personnes. Et au niveau européen, parce qu'il y a des CNIL européennes, par exemple, la CNIL...
Comment faites-vous, j'ai envie de dire, parce que là, vous êtes absolument sur tous les fronts. La CNIL, c'est combien de personnes, la CNIL ?
Mais la CNIL, c'est presque 300 agents, un collège de 18 membres. Donc, on a du pain sur la planche. On est derrière tous les ballons.
Vous utilisez l'intelligence artificielle, vous, à la CNIL ?
On y pense,
Ah, pas encore.
Pas encore, pour différentes raisons. D'abord, si on l'utilise, on veut le faire d'une façon vertueuse, en tout cas en protégeant les données. Ensuite, parce que ça a un coût aussi pour une administration que nous sommes, ça n'est pas neutre, mais ça pourrait être utile, par
exemple. Ça rentre en ligne de compte pour vous. C'est incroyable que la Commission nationale d'informatique et de liberté n'utilise pas l'intelligence artificielle, puisqu'elle est problème de coût. Je sais bien qu'il y a un problème de finances publiques, ça.
Pour l'instant, on en est à la réflexion. Alors, soit dit, la CNIL, elle connaît l'intelligence artificielle depuis.
Par rapport, je sais pas, non?
Non, on n'est pas en retard. D'abord, les algorithmes, c'est des sujets sur lesquels se penche la CNIL depuis très longtemps. Ouais. Quand la CNIL avait mis en demeure APB, qui n'avait pas des algorithmes suffisamment transparents et qui conduisait à faire du tirage au sort sur l'affectation dans des filières sur l'enseignement supérieur, ben c'est la CNIL qui, d'une certaine façon, il y a en 2017 déjà, a conduit à l'adoption de Parcoursup. Et la CNIL, très concrètement, sur l'intelligence artificielle, elle ne souhaite pas du tout freiner l'innovation, elle souhaite l'accompagner, mais avec des garanties. On vient de publier des fiches pour les développeurs de systèmes d'IA lundi, avec des indications pratiques, et on accompagne des acteurs très concrètement.
Tiens, vous parliez de Parcoursup, ça vient de se terminer. Là, vous avez eu des plaintes, justement, là, ou pas ?
Pas à ma connaissance, mais peut-être. Peut-être. Mais on reçoit 16 000 plaintes par an, c'est deux fois plus qu'avant le RGPD, et pour la deuxième année consécutive, on en traite plus qu'on en reçoit. Donc, parce que chaque plainte, c'est un droit, et on essaye de répondre. Et dans une logique, là aussi, d'accompagnement, parce qu'il n'y a pas 16 000 sanctions non plus, même si en l'espace de 5 ans, la CNIL a prononcé presque 600 millions d'euros de sanctions.
Les 600 millions, ils vont où ?
Ils vont dans le budget de l'État.
Ah oui.
Nous ne sommes pas intéressés.
Vous pourriez, ça vous ferait un budget supplémentaire. Alors là, vous avez défini, votre plan stratégique, en fait, les applications mobiles sont au cœur de ce. C'est vraiment ce mis en tête de gondole, pardonnez-moi cette expression, mais enfin, c'est vraiment ça, au cœur de votre programme stratégique. Parce que avec les applis, en fait, on est tracé absolument partout. Donc, à nos données personnelles, on a beau cliquer sur tout ce que vous voulez, elles les ont.
Tout à fait, et on n'en a pas nécessairement conscience, c'est ça qui est important. Le téléphone, c'est le premier vecteur d'accès au numérique maintenant des Français. En l'espace de 4 ans, il y a 4 fois plus d'applications mobiles qui ont été téléchargées, et vous avez toute votre vie dans votre téléphone avec les applications mobiles, avec des données extrêmement sensibles, vos contacts, de la géolocalisation, des photos, des vidéos. Donc très concrètement, ce que nous voulons...
Et les moyens de paiement.
Et de plus en plus de moyens de paiement, effectivement. Donc, ce que veut faire la CNIL, comme nous l'avons fait sur les cookies, sans prendre l'écosystème, comme on dirait, par surprise, c'est publier d'ici quelques mois une recommandation pour dire quelles sont les bonnes pratiques que nous voulons voir advenir.
Ça sera un cadre ?
Oui, ça sera un cadre, comme c'était le cas pour les cookies.
Législatif, ça sera un cadre ?
Non, pas législatif, d'accord. C'est vraiment l'autorité de régulation qui interprète le droit de la protection des données et qui dit, nous vous suggérons de faire comme ci, comme ça, comme on l'a fait sur les cookies, c'est-à-dire du droit, ce qu'on appelle du droit souple. Tout ça fait après beaucoup de concertations et une consultation publique sur le sujet, vraisemblablement, sauf exception, s'il y a des plaintes, etc., un temps d'adaptation pour les acteurs, et puis après, des campagnes massives de contrôle de la CNIL.
Concrètement
la recommandation d'ici quelques mois, et après, avec peut-être éventuellement une période d'adaptation, des campagnes de contrôle pour donner plus de transparence et plus de contrôle aux gens sur leurs données. Que les personnes comprennent que leurs données, dès qu'elles vont sur Internet, dès qu'elles cliquent, elles sont exploitées en général, qu'il faut un consentement, il faut savoir à qui elles sont envoyées, et vous avez des droits sur ces données, un droit d'y accéder, de droit de vous opposer à l'utilisation de ces données. Donc nous essayons de faire beaucoup de pédagogie sur ce sujet.
Mais en même temps, vous n'avez pas été attaqué en Conseil d'État parce que justement, vous avez confié vos données à Microsoft, et donc on vous avait attaqué devant le Conseil d'État, donc une décision qui a été, qui finalement, c'est vous qui l'avez emportée. Mais c'est pas un peu l'arroseur arrosé ?
Non, pas du tout. D'abord, c'est pas nos données. Il se trouve que la CNIL donne des autorisations, délivre des autorisations dans le domaine de la recherche en santé. Et il y a un acteur très important en France qui s'appelle la Plateforme nationale des données de santé. C'est un beau projet d'ailleurs qui consiste à utiliser de l'intelligence artificielle justement pour faire de la recherche en santé, qui a voulu créer un entrepôt de données de santé, c'est-à-dire une grande base de données de santé pour des années pour faire de la recherche avec le sujet de l'hébergement, puisque c'est hébergé chez Microsoft, qui est un acteur américain avec des lois américaines qui permettent éventuellement aux autorités américaines, même si ces données sont localisées en France, d'avoir accès à ces données. Et la CNIL, qui ne fait pas de l'opportunité, mais délivre des autorisations en droit, donne son verre. Le Conseil d'État n'a pas suspendu cette autorisation parce que la CNIL avait obtenu un certain nombre de garanties dans la balance entre l'intérêt de cette recherche et le fait que les données sont pseudonymisées, c'est-à-dire que ce sont des données de personnes qui ne sont pas directement identifiantes. Et on a donné une autorisation que de 3 ans parce qu'on veut voir les données de santé de l'ensemble des Français migrer sur une solution souveraine. Et on a obtenu un engagement du gouvernement pour ce faire.
Marie-Laure Denis, donc on parlait là des applications mobiles. Il y a eu le site chinois de commerce électronique Temu qui a retiré en France un service qu'il avait mis où en fait les clients pouvaient monnayer leurs propres données personnelles. Ça a eu beaucoup de succès, mais en même temps c'était assez contradictoire, contradictoire avec la législation en France notamment. Est-ce que vous avez reçu des plaintes là-dessus déjà ? Parce que Temu, il a retiré ce service-là. Mais est-ce que vous avez reçu des plaintes ?
Alors, on a reçu une plainte, en tout cas. Peut-être davantage depuis, je n'ai pas actualisé exactement le sujet. Peut-être que ce site de vente en ligne chinois a retiré cette offre, entre guillemets, qui consistait à acheter les données à vie de personnes suite à la réaction aussi qu'a eu la CNIL sur le sujet. Parce que autant on peut comprendre que c'est une illusion la gratuité sur Internet et qu'on paye soit avec ses données si on y consent, soit éventuellement en payant pour obtenir un service. Mais à l'inverse, on a des droits qui sont attachés à ces données, comme je l'expliquais, et donc vous ne pouvez pas vous démunir de la possibilité de s'opposer à l'exploitation de ces données, par exemple.
Toute dernière question sur l'intelligence artificielle, parce que là, évidemment, nos données peuvent être complètement utilisées. Comment est-ce que vous allez aborder cette question ? Vous m'avez dit que vous ne l'utilisez pas, mais comment vous allez aborder la question d'usage de l'IA ? Et puis, est-ce que vous pouvez devenir l'autorité de contrôle de l'intelligence artificielle ? Voilà.
Alors,
en 30 secondes, bien sûr.
Alors, en 30 secondes, des bonnes pratiques, après concertation avec le secteur. Donc, on vient de publier des premières indications pour qu'on utilise, parce que l'intelligence artificielle, ça se nourrit de quantités considérables de données, notamment de données personnelles.
Donc, de nos données, oui.
De nos données. Donc, comment être le plus vertueux pour accompagner, pour protéger ces données, y compris dans le domaine de la sécurité, hein, parce qu'on parlait de la sécurité des données. La deuxième chose, c'est de l'accompagnement, parce qu'on ne veut pas être un régulateur hors sol. Donc, on accompagne concrètement des entreprises
et
françaises.
Et est-ce que vous allez devenir l'autorité de contrôle ?
C'est le gouvernement qui
décidera. Oui, mais enfin, c'est dans les tuyaux, on est
d'accord. En tout cas, la CNIL a une légitimité pour être l'autorité de surveillance de marché sur un certain nombre d'usages en matière d'IA, puisque c'est un peu le prisme un peu économique
Donc,
et de
résumé,
sécurité des
ça
produits.
Ça veut dire oui. Merci beaucoup, Marie-Laure Denis, d'avoir été avec nous, présidente de la CNIL. Tout de suite, on retrouve Guillaume Paul, l'essentiel de l'info.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
Allez, 18h35, ils sont là, nos experts. Première partie jusqu'à 19h. Emmanuel Lechypre est avec nous.
Bonsoir à tous.
Emmanuel, Thomas Asportas. Rebonsoir Thomas. Edwige Chevrier avec nous. Rebonsoir Edwige.
Rebonsoir.
On parlait beaucoup de déficit, évidemment, beaucoup de chiffres. D'abord, un mot de ce que vous a dit la présidente de la CNIL, parce que vous avez posé un débat. C'est presque un sujet de philo pour juin prochain, à l'approche des Jeux Olympiques, finalement.
Ou même ce soir, pour le match.
Et on va commencer avec le match de ce soir. Comment concilier sécurité et liberté, est-ce possible finalement ?
Ce qui était très intéressant, c'est que Marie-Laure Denis, donc la présidente de la CNIL, elle a dit c'est pas moi qui fixe, pourtant c'est la garante des libertés, c'est le législateur, donc voilà, c'est le gouvernement qui fixe les limites. Mais parce que l'enjeu est, pour les Jeux Olympiques, ont été autorisées ces fameuses caméras, je simplifie hein, évidemment, avec un algorithme qui fait qu'on pourra repérer oui. Facialement, en disant, tiens, lui, il est bizarre, lui, attention, danger, lui, il est déjà dans le fichier, etc. Donc certains, comme Christian Estrosi, le maire de Nice, il dit, où il y a beaucoup de vidéos surveillance, il dit, moi, je veux utiliser le même genre de caméra, puisque j'ai beaucoup investi, je veux aller jusque-là. En plus, il y a eu on s'en souvient évidemment, ce terrible attentat à Nice. Et là, pour l'instant, ça, c'est interdit. Et je lui disais, mais on voit bien que le risque sécuritaire, il est très très important aujourd'hui. Enfin, il prend une ampleur considérable. On voit bien l'impact que ça a sur nous. Et elle dit, oui, mais là, encore une fois, moi, je dois rester dans les clous. Donc, c'est concilier les deux, combiner les deux, si vous préférez, c'est pas évident. Et que là, on sent bien que l'équilibre est en train un peu de basculer, quoi. Ouais.
Ce sont des caméras.
Un peu moins de liberté, un peu plus de sécurité.
Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ce sont des caméras de reconnaissance faciale qu'on va utiliser pour les Jeux Olympiques ou pas, en fait?
Oui, c'est ça.
C'est la reconnaissance faciale, oui, c'est ça.
Voilà. Avec un algorithme expérimenté. Voilà.
Expérimenté. Vaste débat, hein, quand même. Hein. Déjà de la reconnaissance faciale. Il y a un autre passage aussi qui est intéressant, c'est sur les cyberattaques, vous en avez parlé. 30% de cyberattaques en plus l'an dernier en France. Ouais.
Ça,
c'est incroyable. Hein,
Surtout, c'est qu'on se demande comment est-ce que... Bon, il y a 300 agents, mais comment est-ce qu'ils font pour pouvoir essayer de lutter contre ces cyberattaques?
Ils n'ont pas assez de moyens.
C'est pas les moyens. Ouais. Alors, un truc quand même étonnant, là, moi, je dois reconnaître que j'étais un peu sidéré. La CNIL n'utilise pas encore l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et elle a même dit, sa présidente, pour l'instant, je ne suis pas sûre qu'on ait les moyens. Et là, on voit quand même que ça a peut-être rejoint le
débat du Sénat la semaine dernière qui se désespérait que les administrations n'aient pas assez recours à l'intelligence artificielle.
Oui,
ce à quoi on a répondu, mettez plus d'argent quand même.
Cette séquence est quand même assez terrifiante, quoi.
Ouais. Ça montre bien qu'on est.
C'est vraiment tous les défauts de ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est-à-dire que on réfléchit sur des problématiques liberté, sécurité, etc. Que de la réflexion pendant que les autres avancent sans se poser de questions, et on n'aura toujours pas tranché le sujet dans des mois et des mois. Résultat, on n'a pas les moyens de se payer un peu d'intelligence artificielle pour quand même faire avancer tout ça. Et c'est exactement à l'échelle là de ce qu'on vit pour les JO, c'est ce qui se passe à l'échelle européenne, c'est-à-dire beaucoup de réglementations, beaucoup de contraintes, alors que les autres ils avancent à pleine balle, quoi. Quand vous voyez encore regardez toutes les annonces cette semaine de la Chine, de la Corée sur les milliards qui sont mis sur la table.
C'est sûr que la question des libertés est un petit peu moins
Oui, d'accord.
Présente.
Ils ont moins de questions à se poser.
Oui, d'accord, mais il y a un moment où ça ne peut pas être l'alpha et l'oméga de la réflexion sur ces sujets-là. Voilà, et voilà, et donc c'est quand même assez assez inquiétant.
Voilà donc pour la présidente de la CNIL qui était à votre micro il y a quelques instants. Bon, dans la série, on manque de sous. Bruno Le Maire nous l'a confirmé aujourd'hui, puisque Bruno Le Maire a vu sa copie. Thomas, qu'est-ce qu'il nous dit en gros? Alors, les déficits qui devaient être à 4,4% du PIB à la fin de cette année, ça sera 5,1%. Et en plus, pour parvenir à ce niveau moins reluisant, il va falloir encore trouver 10 milliards d'euros d'économies en plus des 10 milliards annoncés par Bruno Le Maire, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En février, on était qu'à la mi-temps, effectivement, du match, puisqu'il va falloir doubler la dose d'effort. 10 milliards dans la dépense de l'État annoncée mi-février, il va falloir remettre au pot 10 milliards. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Bercy nous a précisé où est-ce qu'ils allaient trouver ces 10 milliards. Il va y avoir 5 milliards supplémentaires dans la poche de l'État, dans les administrations de l'État. On a reparlé des opérateurs de l'État. Les opérateurs, c'est Business France, c'est Météo France et le CNRS. Donc là, il va y avoir des ponctions un peu partout. Il va y avoir 2,5 milliards dans les collectivités. Alors, hier, il y avait le fameux Haut Conseil des finances publiques locales, justement, essayer de toper avec les collectivités. On n'a pas eu le sentiment hier qu'ils aient vraiment topé au vu de la réaction épidémique des collectivités. Mais en tout cas, ils se sont fixés cet objectif d'aller chercher 2,5 milliards d'euros auprès des collectivités en se fixant un objectif de hausse de la dépense qui soit 0,5 points en dessous du niveau de l'inflation. Et les 2,5 milliards restants, ça aussi, c'est une info intéressante et importante, ça va être la fameuse taxation des rentes.
Oui.
Voilà, là maintenant il y a un chiffre qui est posé dessus,
et on a deux. Mais on ne sait pas les rentes, on ne sait pas.
Ah bah là il y a deux, il y a deux pistes, il y a deux pistes officielles, concrètes. C'est un, les énergéticiens. On sait que ça devait rapporter plus de 3 milliards cette année. Là, Thomas Cazenave a dit il y a quelques jours qu'il espérait au moins 1 milliard. Et puis il y a les rachats d'actions. Voilà, là on sait qu'il va y avoir une taxe sur les rachats d'actions. Voilà. Donc c'est pas ces deux-là qui vont faire 2,5 milliards, mais c'est un premier bout, quoi.
Bon, donc on va racler les fonds.
Ça devrait faire la moitié, 1 milliard des énergéticiens.
Oui. Oui,
une taxe sur les rachats d'actions, ça devrait faire 200-300 millions.
Globalement, ces 10 milliards,
ils ont déjà été faits. Est-ce que ça va être rétroactif?
Comment ça ?
La taxe sur les rachats d'actions. C'est pas possible. Non, parce qu'il y a des énormes rachats d'actions.
Ah oui, non.
Ils ont déjà été faits. Donc, est-ce qu'il y en aura autant dans les années suivantes ?
Même la taxe sur Emmanuel.
Même la taxe. 200-300 millions sur tout ce qui est fait.
Même la taxe sur les énergéticiens, c'est quand même assez compliqué. Il faut rappeler que. 30 milliards. Il faut rappeler que le magot, entre guillemets, qu'on avait taxé en 2022-2023. Il y avait cet effet un peu Covid, effondrement des cours du pétrole, donc des profits en baisse. Et c'était vrai à la fois pour tous ceux qui faisaient des biens mondiaux. C'est-à-dire c'était vrai pour les pétroliers, c'était vrai pour les électriciens, c'était vrai pour les transporteurs maritimes aussi. Et puis vous avez ce rebond phénoménal.
Oui.
Donc là, vous aviez bien effectivement des profits exceptionnels. Mmh. C'est quoi les profits exceptionnels de 2023 et de 2024. Donc ça va être très compliqué.
Ça arrive avec un coup de retard.
Les rachats d'actions, oui, ça se fait. D'ailleurs, aux États-Unis, Joe Biden, il a dit faut y aller, faut taxer, etc.
Ah, ils le font déjà.
Absolument. Et il voudrait que ce soit encore plus.
4 fois plus, ouais. Aujourd'hui, c'est 1%.
Exactement.
Et dans son programme, il dit 4%.
Et pourquoi pas ? Mais le problème, c'est qu'on n'est pas encore une fois sur. C'est un mauvais signal. C'est un mauvais signal envoyé aux entreprises. C'est un mauvais signal envoyé aux investisseurs pour un gain qui est quand même mineur.
Non, mais la majorité, c'est qu'on va encore taxer, faire les fonds de tiroir pour aller trouver quelques misérables milliards. Ça reste éventuellement.
Oui, mais là c'est de l'argent qu'on doit trouver en urgence, parce qu'il y a un bouclé à budget pour cette année. L'année, elle est en cours. Là où il y a les vraies réflexions structurelles, en tout cas, on l'espère, qui vont s'amorcer, c'est pour les 3 dernières années du quinquennat.
Oui.
Là, on a. Alors. Le gouvernement n'est pas capable de nous donner le montant officiel, parce que c'est toujours rapporté au PIB, et qu'on ne sait pas précisément de combien le PIB va augmenter d'ici à la fin du quinquennat. Mais dans la trajectoire du programme de stabilité, la dépense publique va diminuer de 2 points entre 2025, 2026, 2027. Si vous reprenez ça au PIB de le dernier connu qui est 2023, ça fait 60 milliards. Voilà. Ouais, une baisse de la dépense publique, donc ça va être minimum 60 milliards.
D'ici la fin du quinquennat.
C'est une baisse de l'augmentation de la dépense publique.
Oui, moins de 60 milliards d'économie, oui, c'est pas 60 milliards
intenable.
De baisse.
C'est intenable pour aller ramener les déficits sous les 3% du PIB, c'est absolument intenable. Enfin, a priori, sauf mesure.
C'est pas interdit.
Justement,
ça dépend de la croissance.
Emmanuel Le Chip nous avait vendu hier un petit schéma qu'il se fait une joie de nous présenter maintenant. Alors, essayez de l'expliquer pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio ou en podcast.
Oui, alors ça fait un peu beaucoup de spaghettis. En gros, sur ce graphique que vous voyez à l'écran, vous avez la courbe bleue qui est un peu la courbe un peu épaisse qui est la trajectoire réelle de nos finances publiques.
Ouais.
Et puis toutes ces petites tous ces petits spaghettis qui partent vers le haut jaune, eh bien ce sont chaque année les promesses qui ont été faites et les trajectoires qui ont été transmises à Bruxelles de promesses de réduction des déficits publics.
Et donc là, vous voyez que année après année, on voit que ça diverge sérieusement d'année après année.
Mais non, parce qu'il y a une grosse chute là. Si je regarde en 2000, il y a une grosse chute.
Bah, comment ça
En 2020
oui.
Ça, bah 2020, c'est le Covid. Mais je veux dire, avant le Covid, on promettait encore de qu'on allait... Regardez en 2020, ce qu'on nous... En 2020, par exemple, juste avant le Covid, on prévoyait de revenir à quasiment moins 1% de déficit public. Et voilà, et donc ça, c'est des choses... Mais c'est pour vous montrer, si vous voulez, que année après année...
Un rétablissement des comptes publics en 2022, à la fin du quinquennat.
On fait des promesses de rétablissement des finances publiques qu'on ne tient finalement absolument jamais. Et là, aujourd'hui, par exemple, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien, après le cercle vicieux dans lequel ça risque de nous emmener, que décrit d'ailleurs l'OFCE qui a publié également
ses
prévisions ce matin, et qui nous dit que d'ores et déjà, en fait, la croissance de 2024 sera amputée de 0,2 points à cause des plans d'économie, qu'en 2025 ce sera 0,6 points, et vous voyez bien ce cercle vicieux dans lequel vous avez, au départ, vous avez moins de croissance qui génère des déficits. Pour redresser finalement les finances publiques, il faut faire encore plus d'économies qui pèsent encore plus sur la croissance.
Et vous ne tenez jamais.
Voilà. Et au final, l'OFCE nous dit la dette va recommencer à augmenter.
Oui, vous tenez Edwige, oui.
Non, juste un point là-dessus sur l'OFCE, c'est-à-dire que c'est très keynésien comme étude économique. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est si vous baissez 10 milliards, ça a un impact immédiat sur vos déficits et sur la croissance. Oui, mais comment vous faites le lien ? Parce que d'abord, ça dépend. Il y a des déficits structurels, déficits conjoncturels. C'est pas les mêmes. Si vous supprimez 5 milliards sur les administrations, je suis pas sûr que ça a un impact sur la consommation et l'investissement.
C'est l'argument justement qu'a donné Bercy, puisqu'on a posé la question au cabinet en disant regardez, l'OFCE, ils disent que si vous sabrez dans la dépense, vous allez tuer la croissance. Et eux, ils disent on n'est pas bêtes, on va aller faire des coupes qui ne pénalisent pas la croissance, parce que ils disent là, le moteur n'a pas changé, et il ne changera jamais, je pense, sous Emmanuel Macron, le rétablissement des comptes publics qui passe par l'activité et la croissance. Et là, ils disent, on commence à voir poindre, peut-être au printemps, les premiers bourgeons de la reprise de la croissance. On voit l'IMO qui commence un peu à repartir. L'inflation qui a beaucoup chuté. Des indicateurs de morale, de ménage, de climat des affaires qui se redressent. On voit une activité qui commence peut-être enfin à repartir. Oui. Après un an et demi, on a été dans le dur. On ne va pas casser ça avec des économies stupides.
Oui, mais est-ce qu'elles sont pas ambitieuses des prévisions de croissance qu'a donné Bercy aujourd'hui? Attendez.
C'est complètement faux sur un plan de l'analyse économique, c'est totalement bidon.
Quoi?
Si vous dépensez. Mais non, vous pouvez.
Non,
pas
mais tous
dire.
Les euros ne se valent pas
mais
dans
qu'est-ce
dépenses.
Qu'est-ce que c'est bidon?
Ben, tous les euros se valent pas dans les dépenses. Bien sûr que si, quasiment.
Non.
Bien sûr que si. Si vous supprimez. Si vous
supprimez. Si tu supprimes le comité Théodule, ça n'a pas un impact fou sur la consommation des Français.
Si tu vas supprimer les gens qui sont dans ce comité Théodule, tu vas supprimer les revenus des gens qui sont dans ce comité Théodule. Si vous supprimez la capacité de dépense de tout un tas de labos de recherche, de centres de recherche de 5 milliards, ce sera, que vous le vouliez ou non, 5 milliards en moins dans l'économie. Alors, je veux bien qu'à la marge, effectivement, il y a quand même des effets d'entraînement de certaines dépenses. Mais enfin, dire qu'on va supprimer 5 milliards à des endroits où ça n'a aucun effet, non, ça n'existe pas.
C'est dommage que Bruno Coquet ne soit pas là ce soir, on aurait pu avoir sa version effet. Quand même, sur les prévisions de croissance que nous donne Bercy, Thomas, 1% pour cette année, bon, ok, 1,4% de croissance l'an prochain, 1,7% en 2026, 1,8% en 2027. Ouais. Mais ça ne se décrète pas, ça. Enfin,
ça ne se décrète pas, mais après, il faut bien se fixer un cap. Honnêtement, ce n'est pas fulgurant non plus comme prévision de croissance. Déjà, c'est les mêmes que celles de la loi de programmation des finances publiques, donc en gros, du dernier exercice en date sur cet exercice de prospective. Donc, Bercy n'est pas plus optimiste aujourd'hui qu'il ne l'était il y a un an. Et deux, ce n'est pas non plus... la croissance potentielle en France, elle est de 1,35%.
Donc,
Mais là, vous avez effectivement votre question. Il y a deux visions qui s'opposent. C'est-à-dire que Bercy croit au redémarrage de l'activité. Ce matin, Patrick Martin, président du MEDEF, était auditionné au Sénat. Dit, franchement, ça va mal. La croissance, on est sur une pente déclinante.
Il le dit depuis
longtemps, mais là, il a redit de manière assez ferme. Mais effectivement, c'est pas nouveau. Il dit honnêtement, là, on n'est pas du tout dans la bonne dynamique, quoi. La croissance. Il donnait un exemple très concret, très parlant. Il disait l'investissement des entreprises pour la première fois a reculé fin 2023. C'était une première depuis des années, et il va à nouveau reculer. Début 2024. Donc, il tient un discours radicalement opposé à celui de Bercy.
Bon, Edwige, pour...
Oui, et puis en plus, il y a deux points, à mon avis, qu'il faut mentionner qui sont importants. C'est la question de la productivité. On a bien vu l'impact, les chiffres qui sont sortis entre la productivité en France, en l'Union européenne, pardon, et puis aux USA. On voit bien qu'il y a une différence absolument très
importante.
Donc, ça veut dire.
C'est
les questions d'investissement, investissement dans l'IA, questions de formation, mais ça a un impact énorme sur la croissance.
Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement. Il faut distinguer, si vous voulez, dans votre déficit, la partie qui est liée purement à la conjoncture et la partie qui est effectivement liée au déficit structurel. On a toujours un déficit primaire. Enfin, on a toujours un déficit structurel qui est beaucoup trop important. Et donc, effectivement, si vous laissez filer le déficit conjoncturel, par exemple les dépenses chômage, etc., oui, mais ça n'empêche que si vous faites un effort uniquement sur le déficit structurel, si vous réduisez les 5 milliards de dépenses pour réduire votre déficit structurel, c'est quand même 5 milliards qui auront un impact sur l'économie.
Bon, très vite, parce qu'on va écouter Stanislas Guérini après.
Oui, très vite. Juste, moi, ce qui me sidère un peu, c'est un peu la fébrilité quand même ambiante, hein, au sein du gouvernement.
Ah là, ouais.
4-4, là, on passe à 5-1, alors que le 4-4, il a été... c'est le déficit qui avait été prévu pour 2024 il y a encore quelques jours. Là, on vous dit c'est 5-1 ce matin. Idem pour les chiffres 2023. On ne va pas refaire l'exercice. Mais c'est une espèce de fébrilité et d'impuissance politique, quand même, à essayer de trouver une solution sur la situation actuelle.
Est-ce qu'on a fait déjà...
Mais qui est lié aussi, Edwige...
Est-ce qu'on n'a pas déjà fait le deuil d'une dégradation des agences de notation
qui, pour le coup, n'est pas lié, à un problème d'analyse ou d'expertise. C'est qu'il y a un vrai sujet autour de l'imprévisibilité croissante de tout un tas de rentrées fiscales et de la volatilité de tout un tas de
rentrées fiscales. On est d'accord, mais en même temps.
Pour tout un tas de raisons qui ne sont pas forcément liées, pour le coup, à la compétence de nos ministres ou de nos fonctionnaires du budget.
Oui, quand même, il va y avoir des remontées. Ou alors, comme me disait un économiste que j'ai vu, c'est que ça ne marche plus très bien à Bercy. Il y avait quand même des remontées sur ce qui se passait. On ne découvre pas un 5-1 tout de suite.
Thomas, après, ils l'ont dit, hein, ils ont fait un peu leur mea culpa. Ils ont dit 2023, on était pris par surprise. Mais bon, une surprise à moins 21 milliards.
Bah, rentrée fiscale, là, rentrée fiscale en moins.
Ça, oui, mais enfin, c'est colossal.
Pour conclure, il y a deux choses à retenir de ce PESTAB, de ce programme de stabilité. C'est que, un, effectivement, la trajectoire de baisse du déficit, elle est quand même très ambitieuse. C'est-à-dire que 5-1, c'est pas du tout ambitieux en soi, mais passer après à 4-1, à 3-6, à 2-9, ça fait quand même une descente à marche forcée.
Le fameux schéma d'Emmanuel, le schéma
Performant pour y arriver. Et deux, on n'a pas parlé de dette. Oui. Mais alors là, sur la dette, quand même, ça attire mon attention. Parce que l'objectif, dans la loi de programmation de finances publiques, c'était d'aller, c'était pas glorieux, hein, mais c'était tenir le quinquennat à 108 points de PIB.
Oui.
Là, on est à 112 points de PIB. Donc, on a revu notre objectif à la hausse de 4 points de PIB. Et 112 points de PIB, j'ai regardé, c'est le niveau de dette qu'on avait avant la guerre en Ukraine. Donc, au sortir du Covid, on s'est pris 14 points de dette en plus avec le Covid. L'ambition qu'on a, c'est de rester au niveau post-Covid à la fin du quinquennat.
On analysera encore bien des spaghettis, les prochaines années.
Oui, Western.
Bien, voilà pour ce PESTAB, hein, c'est le nom de ce programme de stabilité. Acronyme. Voilà, on a découvert ça. C'est parti du jargon de Bercy. Écoutons Stanislas Guérini. Donc, il faut mettre fin au tabou du licenciement dans la fonction publique. Petite phrase qui a suscité bien des commentaires. Écoutez, c'était ce matin.
Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la fonction publique, quand, par exemple, on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique. Et je ne souhaite pas changer ça. Je pense que c'est statutairement quelque chose qui est très important et qui distingue le public du privé. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946, quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle existe déjà.
Il y a cet outil-là, il est très mal défini, et il est surtout extrêmement peu appliqué.
Bon, on a deux minutes pour en parler. Alors, pourquoi maintenant, quoi ? C'est ça qui m'étonne.
Ah bah, moi, c'est ce que je ne comprends pas. C'est au moment où il y a un préavis de grève déposé vers la CGT pour les Jeux Olympiques, dans la fonction publique, qu'on voit le climat social, qu'il n'y a pas d'accord avec les syndicats et les partenaires sociaux. Enfin, pourquoi faire ça maintenant ?
Un ballon d'essai comme il y en a tellement, en fait, peut-être.
Bah, non, mais attendez, il fallait soit le faire avant. Je veux dire, il est quand même nommé ministre depuis quelques semaines. Le faire avant ou le faire après les élections européennes et après. Et après les Jeux Olympiques, enfin je sais pas.
C'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même
beaucoup. C'est que pour les agences de notation, pardon.
Oui, et puis je pense qu'il y a beaucoup de mesures qui sont dictées par les sondages et par l'opinion, et je pense qu'une partie de l'opinion achète ce genre de propos.
Ah bah là vous grattez des voix du côté des LR en vue des élections européennes, effectivement, c'est ça l'explication la plus. Emmanuel, comment est-ce que vous regardez ça ? Il a raison de faire cette sortie.
On parlait des déficits, des comptes publics, etc. On voit bien que le nombre de fonctionnaires ne baisse absolument plus. Donc là, on donne une forme de gage en disant on va quand même un petit peu s'attaquer à la question des fonctionnaires.
Emmanuel, vous avez une minute.
Oui, parce que je suis étonné, parce qu'en fait, dans le public, comme dans le privé d'ailleurs, le licenciement pour faute, etc., franchement, c'est quand même rarissime. Donc, c'est pas ça ce qui est important. Ce qui est important, ce qui ne fonctionne plus dans l'administration, c'est tout ce qui concerne le management des hommes. C'est la récompense du mérite. Ce matin, avec mes camarades d'RMC, on a eu plein d'appels de managers intermédiaires dans des municipalités qui disent, mais attendez, on ne peut plus gérer des équipes parce qu'il est impossible de sanctionner ceux qui font mal leur boulot et il est impossible de récompenser ceux qui le font bien. Mais ça, c'est pas lié du tout au statut. Donc, il y aurait énormément de marge d'amélioration. Déjà, aujourd'hui, on pourrait exiger, par exemple, en contrepartie de cette garantie de l'emploi, plus de mobilité. Et on pourrait redynamiser. Qu'ils prennent le sujet par l'aspect le plus horripilant pour les syndicats, avec le moindre résultat concret, parce que c'est pas ça qui changera la façon de travailler de l'administration. J'avoue que c'est
Il avait fait une sortie il n'y a pas longtemps sur les quelques 200 000 salariés de la fonction publique qui n'étaient pas encore aux 35 heures. Voilà, vous sentez bien.
Oui, c'est ça. C'est la question du temps de travail et éventuellement du salaire au mérite. C'est les deux points qui sont importants. Celui-là.
C'est le même son de cloche que l'assurance chômage. Vous voyez bien que.
Ballon d'essai.
On remet au travail ceux qui s'attendent.
C'est la même philosophie.
Oui.
C'est la même philosophie.
C'est ça l'idée.
De dire, voilà, on a fini, on siffle la fin de la récré.
Voilà, effectivement, et dans la foulée, la CGT qui a donc annoncé dans la fonction publique que les préavis de grève étaient déposés. Alors ça commence dès le 15 avril. Hein, 15 avril prochain, c'est lundi prochain, le 15 avril. Les préavis de la CGT dans la fonction publique, et ça va jusqu'au 15 septembre, à la fin des Jeux paralympiques. Voilà. 6 mois qui vont nous tenir en haleine. C'est terminé pour ce soir. Merci beaucoup Thomas. Merci. Thomas Asportas. Merci Emmanuel. Emmanuel Le Chypre. Edwige, on se retrouve demain, 18h10.
Philippe Normano.
Oui.
Patron du métier, président de Sisley. Le luxe, lui, continue à se porter très bien.
Eh ben, écoutez.
Voilà, il a plein d'annonces à faire. Et puis, je lui poserai la question sur cette négociation sur les seniors qui a échoué.
Ah, oui.
Est-ce qu'il aurait signé ou pas signé, lui, le patron du métier?
Philippe Dornano, le patron du métier, demain, donc 18h10, au micro d'Edwige Chevrillon. À demain, 18h56. Ben, nous, on revient dans un instant. On va parler justement de l'emploi des seniors, de cette négociation qui a capoté. Pourquoi ça a capoté? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant? On verra ça avec Caroline Morisseau. Et puis, on parle de tous nos gros sujets, notamment cette chasse aux milliards et. Bruno Le Maire qui revoit sa copie avec encore des milliards à aller chercher pour cette année. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, 19h, on est reparti, la deuxième heure de Good Evening Business en direct jusqu'à 20h dans l'actualité ce soir. Bah, c'est un petit peu la douche froide parce que Bruno Le Maire nous l'a confirmé tout à l'heure. Oui, nos déficits publics vont bien être plus élevés que prévu à la fin de cette année. Mais en plus, pour atteindre ce résultat moins reluisant, il va falloir faire encore des économies, 10 milliards de plus que ce qui avait déjà été annoncé par Bruno Le Maire en février. On va voir ça avec Thomas Asportas dans un instant. Sinon, on va reparler bien sûr ce soir de cette négociation sur l'emploi des seniors qui a capoté la nuit dernière à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui peut se passer désormais? On verra ça avec Caroline Morisseau. Et puis, on parlera bien sûr de cette petite phrase du ministre de la fonction publique Stanislas Guérini qui veut, je cite, « lever le tabou du licenciement ». Dans la fonction publique. Petite phrase qui suscite énormément de commentaires. On parle de tout ça entre autres avec nos experts qui reviennent bien sûr à 19h15 jusqu'à 20h. Qui sera avec nous ce soir? Eh bien, on sera avec l'ancien ministre de l'économie et des finances Michel Sapin, avec Jean-Marc Silvestre d'Atlantico et avec l'économiste de l'OFCE Henri Stierdignac. Voilà le programme. Merci d'être avec nous jusqu'à 20h en direct. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc, nous voilà fixés sur la nouvelle trajectoire budgétaire de la France d'ici la fin du quinquennat, puisque Bruno Le Maire a revu sa copie. Bonsoir Thomas. Donc, d'ici à la fin de l'année, les déficits devraient être à 4,4%. C'était l'objectif, on sera à 5,1. Et pour en plus y arriver, il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économies supplémentaires. C'est ça Thomas, hein ?
Exactement, qui s'ajoute aux 10 milliards qui ont déjà été annoncés en février. Donc ça fait 20 milliards au total pour tenir un objectif de déficit à peine au-dessus des 5% de déficit pour cette année, après 5,5% l'année dernière. Donc c'est quand même pas très glorieux tout ça. Ça fera de la France le pays qui a le plus lourd déficit des grands pays de la zone euro, juste derrière l'Italie. Et comme si ça ne suffisait pas, il va falloir faire vraiment de très gros efforts d'économie pour tenir ces objectifs plus glorieux. Vous l'avez dit, 10 milliards déjà annoncés en février. 10 milliards supplémentaires, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc en fait, on n'était qu'à la mi-temps en février. Il va falloir faire deux fois plus d'efforts. Dans le détail, Bercy a expliqué comment allaient être composés ces 10 milliards d'économies supplémentaires à aller chercher. On a 5 milliards dans les administrations de l'État. Le ministère a donné des pistes. Il a parlé d'immobilier de l'État, il a reparlé du compte personnel de formation, ou encore des opérateurs de l'État. On a aussi 2,5 milliards qui vont être cherchés dans les dépenses des collectivités locales. Il leur a donné un objectif, c'est de plafonner la hausse des dépenses des collectivités à 0,5 points en dessous de l'inflation. Et enfin, 2,5 milliards via la taxation des rentes, ça c'est le sujet qui monte. Deux pistes sont déjà sur la table, au moins 1 milliard à aller chercher auprès des énergéticiens et la taxation des rachats d'actions.
Bon, donc on comprend que ça va être très tendu pour l'an cette année. Est-ce qu'à partir de l'an prochain, ça va commencer à se détendre un petit peu quand même?
Alors, dans ce nouveau tableau, dans ces nouvelles hypothèses, ce ne sont que des hypothèses, on a un déficit qui baisserait à 4,1 l'an prochain. Donc un point de déficit en moins en un an, c'est très ambitieux pour dire le moins. On serait ensuite à 3,6 en 2026 et enfin 2,9 en 2027. Donc vous voyez que ça descend quand même très vite tous les ans. Il va falloir réussir de grosses performances budgétaires pour tenir cette trajectoire. Et pour y parvenir, le gouvernement compte beaucoup sur le retour de la croissance après le creux de l'année dernière et de cette année. Bercy dit voir déjà des premiers signes de reprise depuis le début de l'année. On nous dit que le crédit immobilier est en train de repartir. La chute de l'inflation ou encore le moral des ménages et le climat des affaires qui se redresse, tout ça devrait entraîner la reprise de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises. Et donc, fait dire à Bercy que l'activité va repartir, que la croissance va accélérer à 1,5%. 1,4 l'année prochaine, 1,7 en 2026, 1,8 en 2027. C'est le nouveau scénario macroéconomique que Bercy va vendre au marché, aux agences de notation et à la Commission européenne dans les prochaines semaines.
L'agence de notation qui parle dans une dizaine de jours pour les premières.
Exactement.
Effectivement, ça arrive très très vite. Merci beaucoup Thomas. Thomas Asportas avec nous sur BFM Business. Dans l'actualité de ce mercredi, ça devait arriver à quelques semaines du début des Jeux Olympiques. La CGT a confirmé qu'elle avait déposé des préavis de grève dans la fonction publique. Ils vont s'étirer de lundi prochain, 15 avril, au 15 septembre prochain, jusqu'à la fin des Jeux Paralympiques. La CGT dégaine car elle estime qu'il n'y a pas assez de mesures compensatoires pour les agents qui seront mobilisés cet été. Peut-être a-t-elle été aussi un petit peu irritée par les propos du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui a déclaré ce matin qu'il voulait, je cite, « lever le tabou du licenciement dans la fonction publique ». Petite phrase qui a fait beaucoup réagir. On en reparlera bien sûr longuement ce soir avec nos experts. Et puis l'autre gros sujet dont on doit reparler ce soir, c'est ce qui s'est passé la nuit dernière. Il n'y a pas eu d'accord entre syndicats et patronats sur le dossier de l'emploi des seniors. On s'est quitté un peu avant 3h du matin. Écoutez ce que disait ce matin le patron du MEDEF, Patrick Martin. Pour lui, il n'y avait clairement pas la place pour un accord.
Il n'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que, en particulier, la CFDT FO, avec qui nous avons une bonne relation, je tiens à le dire, on n'est pas du tout dans un pugilat. Hein. On, dans la dernière ligne droite, beaucoup insisté pour que soient améliorés ou aménagés les régimes des retraites progressives. Il se trouve que la lettre de cadrage que nous avait imposée le gouvernement interdisait toute dépense supplémentaire. Or, ce dispositif, si on avait donné suite aux demandes donc de ces deux organisation syndicale, ce dispositif aurait généré des surcoûts. Donc c'était inconcevable. Donc voilà, cette négociation n'aboutira pas.
Voilà, Patrick Martin ce matin devant le Sénat. Bonsoir Caroline Morisseau. Première question, qu'est-ce qui a bloqué pour qu'on aille dans le...
Tout a bloqué en fait. Les syndicats ont considéré que le texte était trop déséquilibré pour parvenir à un accord.
Pour parvenir à un accord, qu'est-ce qui peut se passer maintenant ?
Oui, la conséquence, c'est qu'en fait, cet échec de la négociation sur les seniors risque d'avoir une conséquence sur un autre accord, celui sur l'assurance chômage, parce que les deux sujets sont directement liés. En fait, pour bien comprendre, il faut remonter à novembre dernier. À ce moment-là, les partenaires sociaux avaient conclu un accord sur les nouvelles règles d'assurance chômage, et les syndicats, dans cet accord, se sont engagés à décaler 2 ans toutes les bornes d'âge liées à l'indemnisation des seniors, avec à la clé 440 millions d'euros d'économie. Mais à une condition, d'obtenir des contreparties sur l'emploi des seniors. Donc la mesure a été mise entre parenthèses jusqu'à ce que la négociation sur les seniors se passe. Derrière, le gouvernement a du coup décidé de ne pas valider l'accord assurance chômage tant que les économies promises n'étaient pas au rendez-vous. Problème, faute d'accord sur les seniors, les syndicats vont très probablement refuser de décaler de 2 ans tous les avantages liés aux seniors. Alors rien n'a encore été officialisé. La CFTC, FO et la CFDT qui étaient signataires de cet accord inédit doivent réunir leurs instances pour décider de la suite des événements. Mais si c'est le cas, s'ils refusent de valider cette mesure sur les seniors, si les économies ne sont pas au rendez-vous, le gouvernement va lui aussi très probablement refuser de valider l'accord sur l'assurance chômage qui lui permettra de reprendre la main encore plus vite que prévu et d'adresser très rapidement une lettre de cadrage et de repartir de zéro avec une nouvelle réforme de l'assurance chômage.
Avec nous sur BFM Business, mauvaise nouvelle pour Vinci. D'après l'agence France-Presse, la justice a rejeté sa demande d'indemnisation après l'abandon, vous savez, du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le groupe réclamait 1,6 milliard à l'État, mais toujours d'après ces infos, la justice ouvre quand même la voie à une indemnisation de résiliation dont le montant serait fixé ultérieurement. Et puis la Chine, on s'en doutait, n'a pas fraîchement apprécié la décision de Bruxelles, on en parlait hier, d'ouvrir une enquête contre les géants chinois de l'éolien. Le monde s'inquiète des tendances protectionnistes croissantes de l'Union européenne. Voilà ce qu'a déclaré réellement un porte-parole de la diplomatie chinoise aujourd'hui. Et puis alors, mais vous pourrez l'écouter plus en longueur tout à l'heure dans Tech & Co après 20h, Yann LeCun, vous savez, le célèbre chef de l'IA chez Meta, était à Paris aujourd'hui et il nous a parlé quelques minutes de ce modèle d'intelligence artificielle que Meta va bientôt sortir et qui est susceptible de concurrencer ChatGPT-5. Vous écoutez ça tout à l'heure. Il en a aussi profité pour le dire aux Européens. Voter une loi comme vous l'avez fait le mois dernier, le fameux IA Act, c'est clairement se tirer une balle dans le pied. Écoutez.
La grosse question qui, à mon avis, mérite un débat important, c'est est-ce qu'il faut réglementer la recherche et le développement ? Mon opinion personnelle, qui n'est pas l'opinion nécessairement officielle de Meta, c'est que l'Europe est probablement allée un petit peu trop loin, un peu trop vite, dans la réglementation de la recherche et du développement, en disant il y a des modèles d'IA de très grande taille qui seront peut-être intrinsèquement dangereuses. Je n'y crois pas du tout, moi, personnellement. Et je pense que ces réglementations, en fait, vont chasser certaines entreprises de l'Europe, quoi. Vont limiter le déploiement de certains produits aussi en Europe.
Voilà, Yann Lequin, le chef de l'IA chez Meta Intaou, pour écouter plus en longueur dans Tech & Co tout à l'heure sur BFM Business à 19h09. Nous retournons sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
Les marchés, bonsoir Étienne Brack.
Bonsoir.
On regarde la clôture à la Bourse de Paris ce soir. Le CAC 40 qui n'a pas fait grand-chose. On est quasiment stable à 8045 points. Et à Wall Street, comment ça se passe, Étienne?
C'est du rouge bien plus vif, hein, puisque vous avez même un Dow Jones qui pourrait vivre sa pire séance en un an. Moins 1,5%, moins 1,3% pour le S&P quand le Nasdaq cède 1,2%. Avec des chiffres d'inflation qui ont été publiés tout à l'heure aux États-Unis. Hein. C'est vraiment la donnée de la semaine avant la BCE demain. Et l'inflation aux États-Unis, eh ben, elle décélère pas, elle continue de stagner et elle ressort au-dessus des attentes avec une inflation qui ressort à 3,5% le mois dernier sur un an et puis surtout hors énergie et hors alimentation, elle ressort à 3,8% alors que le consensus s'attendait à 3,7. Donc par rapport à cela, vous avez un marché qui ne vise quasiment pas, allez, 77% des analystes ne voient plus de baisse de taux au mois de juin, hein, donc sachant qu'il y a encore quelques semaines, les marchés pariaient à grande majorité sur une baisse de taux au mois de juin, donc forcément ça s'ajuste aujourd'hui, l'obligataire qui repart de l'avant, les refuges qui sont à nouveau recherchés. Alors néanmoins vous avez Nvidia qui prend 1,5% aujourd'hui, avec notamment TSMC qui a publié ses résultats largement au-dessus des attentes, hein. TSMC qui fabrique les puces de Nvidia, une demande qui est toujours très forte dans l'intelligence artificielle. Et puis une autre valeur qui fait l'actualité aujourd'hui aux États-Unis, c'est Delta Airlines qui est l'une des plus grosses compagnies aériennes au monde et puis surtout aux États-Unis, demande qui est toujours très forte, les hausses de prix, ça passe. Deuxième trimestre, ils sont confiants. Donc par rapport à cela, vous avez toutes les compagnies aériennes en Europe, mais aussi aux États-Unis qui surperforment la tendance, qui est négative donc, avec trois indices qui perdent entre 1,2 et 1,5% aujourd'hui.
Et ben voilà pour la tendance à la mi-séance dans le rouge, clairement du côté de Wall Street. Merci beaucoup Étienne. 19h12, on revient dans un instant avec nos experts. On a énormément de choses à voir jusqu'à 20h. Bruno Le Maire qui revoit sa copie, il va falloir trouver 10 milliards d'euros d'économies en plus pour cette année. L'emploi des seniors, pourquoi est-ce que ça a capoté? Qu'est-ce qui peut se passer? Et puis évidemment, la petite phrase de Stanislas Guérini qui veut lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Ça a suscité énormément de commentaires. Et bien, il va y en avoir ici sur ce plateau d'ici 20h, à n'en point douter. A tout de suite.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h15, ils sont là nos experts jusqu'à 20h pour refaire l'actu. Elle est pléthorique aujourd'hui. Henri Stardignac est avec nous. Bonsoir Henri.
Bonsoir.
Bienvenue, économiste à l'OFCE, membre des économistes atterrés. Jean-Marc Sylvestre est avec nous. Jean-Marc, bonsoir. Éditorialiste Atlantico. Michel Sapin est avec nous. Bonsoir, bonsoir monsieur le ministre, ancien ministre de l'économie et des finances. Ancien ministre du Travail, ancien ministre de la fonction publique. Je dis ça parce qu'on va invoquer plusieurs casquettes aujourd'hui, tant l'activité est pléthorique. Alors, douche froide, est-ce que vous achetez le terme de douche froide? Parce que Bruno Le Maire nous l'a dit tout à l'heure, nos déficits devaient être à 4,4% du PIB à la fin de cette année, ça sera 5,1%. Et en plus, pour tenir cet objectif moins reluisant, il va falloir faire 10 milliards d'euros d'économies en plus des 10 milliards déjà annoncés par Bruno Le Maire mi-février. Écoutez ce que disait Bruno Retailleau ce matin pour Les Républicains, parce que le chiffre fuitait déjà ce matin, écoutez.
Les deux quinquennats d'Emmanuel Macron se seront soldés par 1000 milliards de dettes en plus. Aujourd'hui, le stock de la dette que supportent les Français, parce qu'au bout du compte, c'est eux qui en sont responsables sur leurs épaules, si j'ose dire, et non pas dans leurs décisions, ça ne dépend pas d'eux, évidemment, c'est des mauvais gouvernements qui ont ajouté la dépense publique à la dépense publique. Mais sur 3 000 milliards, 1000 milliards depuis 2017 pour Emmanuel Macron. Ce qui fait de la France le cancre de l'Europe, avec l'affaiblissement de la voix de la France en Europe. C'est important puisqu'on est à quelques encablures des élections européennes. Mais...
Bon, après vous allez vous dire, le manque de sérieux budgétaire, c'est un éternel recommencement, c'est du déjà vu en France. Michel Sapin, comment est-ce que vous regardez ces chiffres, vous?
Il y a un manque de sérieux et manque de sérieux, si je puis me permettre. Et juste comme ça, si vous regardez la courbe de l'évolution des déficits, vous verrez que les moments où c'est le plus bas, c'est la plupart du temps quand la gauche est au pouvoir. Alors je dis ça, tout le monde va dire, tiens, c'est étrange, mais pas du tout. Mais bon, c'est comme ça.
Sous François Hollande, on n'a pas tout le calendrier non plus, hein, tout à fait.
Sous François Hollande, la dette n'a pas cessé de diminuer depuis le début jusqu'à la fin. Parfois, on a même critiqué je vois revenir ce thème-là sur le fait qu'on l'a fait diminuer trop rapidement, en particulier au début.
Ouais.
Donc la critique arrive, hein, on la voit, mais on ne peut pas dire qu'on n'a pas fait diminuer. Et le plus bas a été en 2017. C'était la conséquence, évidemment, sur une année complète de ce que nous étions. Je ne dis pas ça du tout. Après, la question du sérieux budgétaire est une chose. Tout le monde doit être sérieux, qu'on soit de gauche ou qu'on soit de droite. Mais la manière et le pilotage en est une autre. Au fond, aujourd'hui, ce qui m'étonne, hein, c'est qu'on dise « on découvre le problème ». Pas vrai du tout. Ce problème-là, il n'est pas découvert parce qu'il y a eu un chiffre qui est sorti, parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes il y a quelques... Non, on savait très bien, on le disait d'ailleurs même ici, l'année dernière, au début de l'année dernière, que le « quoi qu'il en coûte » avait duré beaucoup trop longtemps par rapport à l'utilité que ça pouvait avoir pour lutter contre les effets de la crise économique due à l'arrêt de l'économie avec le Covid. Mais après, c'est devenu, j'ai souvent dit, un art de dépenser. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai vu un ministre des Finances, le même, qui aujourd'hui fait le grand doctrinaire, qui se félicitait à la fin de l'année d'avoir dépensé plus que ce qu'il avait prévu. Ce qui montrait que le dispositif du quoi qu'il en coûte avait bien fonctionné. Donc voilà, il y a eu quand même des erreurs lourdes qui ont été commises au cours de ces dernières années.
Et plus dur à le réveil, 10 milliards d'euros à aller trouver, en plus des 10 milliards d'économies que nous avait déjà annoncé Bruno Le Maire le 19 février dernier, Henri Sterdyniak.
Oui, c'est...
Voilà la facture.
C'est un peu beaucoup, et on se demande quand même si charge un peu trop la barque. Il y aura quand même automatiquement une baisse des dépenses liées au bouclier tarifaire. Ouais. On peut espérer quand même remonter des recettes après quand même l'accident qu'on a connu en fin d'année 2023. Maintenant, effectivement, on se trouve devant un gouvernement, enfin une série de gouvernements Macron qui ont eu des pratiques un peu bizarres. Par exemple, au total, si on fait le total, ils se vantent d'avoir baissé les impôts de 76 milliards, ce qui est quand même tout à fait énorme. Et puis, il y a eu des dépenses tout à fait inconsidérées. Les 20 milliards de plus qu'on consacre à l'apprentissage, qui n'ont pas été pensés, tout ça...
Mal aiguillé.
Côté mal aiguillé. Bon. Tout ça fait que, naturellement... il faut quand même donner un petit coup de frein.
Ce qui inquiète quand même, c'est la façon dont on va aller chercher ces 10 milliards supplémentaires. Ce qu'on nous donne des pistes, on dit qu'il y aura 5 milliards dans les dépenses des administrations de l'État. On en reparle de l'immobilier de l'État, du compte personnel de formation. 2 milliards et demi dans les dépenses des collectivités locales et 2 milliards et demi via la taxation des rentes. On va encore aller gratter comme ça des milliards en faisant les fonds de tiroir sans véritable méthode d'ensemble.
On va être au cœur du problème. Je crois qu'il y a deux choses que sur lesquelles je voudrais attirer votre attention. Il y a un débat sur la dette. Il y a un débat sur le déficit budgétaire. Et il y a évidemment un débat sur la façon dont on peut réduire le déficit budgétaire. Alors quand j'entends aujourd'hui dire oui, on a trop dépensé, oui, on n'a pas pris assez suffisamment d'impôts, j'ai pas beaucoup de solutions derrière. Michel Sapin en aura peut-être plus tard, mais pour l'instant, je ne vois pas comment dans la classe politique, dans la majorité comme dans l'opposition, on va trouver à faire des économies budgétaires. D'où, si vous voulez, le coup de colère du ministre de l'économie qui réclame un peu d'effort du côté du Parlement. Je dois dire qu'on lui tombe dessus aujourd'hui, on lui tombait pas dessus quand il fallait signer des chèques pour les Gilets jaunes, on lui tombait pas dessus quand il fallait signer des chèques quand les banlieues étaient en train de saccager le centre de Paris, on lui a pas tiré dessus lorsque on a fait le confinement et le Covid, et c'est maintenant qu'on a un problème de financement, parce qu'il y a une deuxième psychodrame qui est en train de se créer, qui est le psychodrame sur la dette. On s'aperçoit qu'on a accumulé une dette a priori importante, puisqu'elle représente aujourd'hui 112 ou 113 ou 110 ou 112% du PIB, plus de 3000 milliards. On n'a jamais eu de difficulté à lever. Hein, aucun marché financier n'a mis la moindre résistance, la moindre prime de risque, le moindre spread sur le coût de cette dette, et c'est encore aujourd'hui un cas possible. Donc aujourd'hui, on a une dette qui anime la classe politique. Monsieur Retailleau en a fait des tombereaux ce matin
tout le monde en fait
en disant nous sommes au bord de la faillite, etc., etc. Moi, je ne crois pas que nous soyons au bord de la faillite. Alors, en revanche, nous sommes sans doute au bord, dans l'antichambre des agences de notation, qui vont sans doute nous dégrader compte tenu de la nouvelle...
Vous avez une info en ce sens que vous devez se dégrader dans 10 jours
Parce qu'à partir du moment où on a réactualisé les prévisions budgétaires pour 2024-2025, les agences de notation. Mais les agences de notation, elles ne sont pas tellement écoutées par les marchés.
De moins en moins, moins qu'avant.
Le problème, c'est qu'il n'y a aucun risque de faillite. Les agences de notation peuvent dire ce qu'elles veulent.
Je voudrais terminer par une question que je voudrais poser au ministre de l'économie et des finances. Le ministre de l'économie et des finances, moi, je le vis un peu comme un directeur financier dans une grande entreprise qui fait des comptes, qui les aligne et qui regarde si ça va. Et il applique la politique que le président lui a demandé d'appliquer. Vrai ou faux, monsieur le ministre ?
Alors, Michel Sapin, répondez.
D'abord, deux très courtes remarques de méthode. Les raisonnements en milliards, comme le fait ce matin Retailleau, c'est une manière de tromper les gens.
C'est nul.
C'est pas la bonne manière. Oui. Pourquoi ? Parce que tous les ans, vous avez de l'inflation, vous avez des faux milliards, si je puis dire, qui s'accumulent. Le seul critère qui est important, c'est le pourcentage par rapport à la richesse de la France. C'est le seul
110.
Ce qui est considérable. Oui.
Mais c'est
considérable.
Mais c'est moins que l'Allemagne, c'est vrai, mais c'est la moyenne européenne. Vous avez vu la Grèce ?
Allons-y et on vivra les mêmes difficultés
que la Grèce. Vous avez vu le Japon ?
Le Japon,
250%.
Oui, mais il vit depuis des années.
Il vit sur lui-même.
Michel, vous avez vu les États-Unis ?
Non, mais vous regardez la France et vous regardez les pays comparables à la France, nous sommes les plus mauvais. Alors, deuxième remarque de méthode. Parce que j'aime pas la démagogie. On accumule des milliards et on dit la France va tomber en faillite. Mais
j'ai pas dit ça.
On écoute. Non, mais c'est pas vous. Mais c'est ce que j'entendais. Mais il y a une conséquence, même sans dégradation de quoi que ce soit, c'est que aujourd'hui payer la dette, ça coûte de plus en plus cher. Moi, j'ai connu une période, c'était une facilité, où à la fin de l'année, on avait économisé en coût de la dette. Parce que les taux d'intérêt avaient baissé. Oui. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et le plus grave problème auquel est confronté ce gouvernement et le ministre des Finances, c'est que tous les ans, il y a 10 milliards de plus que personne ne voit. C'est ces 10 milliards
qui
n'existent pas, qui sont service de la dette, des intérêts, etc. C'est ça la grande difficulté et qui rend absolument nécessaire.
Heureusement, l'essentiel de la dette, pardonnez-moi,
Heureusement, actuellement, le poids de la charge de la dette dans le PIB est extrêmement faible, 1,6%, donc c'est un niveau très faible, et par ailleurs, il faut considérer que la dette est automatiquement réduite par la croissance, comme on a eu une croissance en valeur de 6,4% en 2023. On paye 1,8% sur une dette quand on a une croissance en valeur de 6,4%. Donc la dette ne nous coûte rien. Et c'est ça le problème. En 2023, la dette nous a rien coûté. Et normalement, même dans les prévisions jusqu'à 2027, elle ne nous coûtera rien.
Mais dans le budget, Michel, vous mettez des milliards en plus.
C'est ce que vous croyez parce que vous...
Ah bah c'est ce que je crois. Qu'est-ce que fait le ministre des Finances ?
C'est ce que vous croyez parce que vous étiez ministre des Finances, mais moi qui n'ai jamais été ministre des Finances, mais qui a été économiste, je considère qu'il faut corriger...
Il
n'y
a pas de problème que l'argent est magique et que tout ça...
Il faut corriger les intérêts du taux de croissance.
Bon, est-ce que vous êtes... Quand on regarde un petit peu la situation en Europe, les Allemands qui, à quelques jours de la deadline budgétaire, ont dû trouver en catastrophe 60 milliards d'euros pour boucler le budget 2024. Quand vous voyez les Italiens qui n'ont pas envoyé de programme de stabilité, ils n'ont toujours pas donné le chiffre définitif de leur déficit de l'an dernier. Quand vous voyez l'Espagne qui n'a pas de budget, qui a dû reconduire en 2024 le budget 2023 qui est appliqué au jour le jour par le gouvernement finalement de Pedro Sanchez. Est-ce qu'on a tort de s'inquiéter à ce point du côté de la France finalement ? Fondamentalement.
Moi je ne suis pas de ceux qui crient tout d'un coup à la catastrophe. Non. Je pense que ce serait une erreur.
Quand vous entendez ce que j'aime pas non plus, c'est ceux qui se...
ceux qui se retournent d'un seul coup l'espace de 6 mois, en passant de chantre de la dépense à aujourd'hui, parfois même de manière outrancière, en chantre de l'économie. Et là aussi, problème de méthode, et que les ministres des Finances connaissent bien, le coût des 10 milliards qui tombent en début d'année, comme ça, rabotage Ça n'est jamais fait. On ne va jamais au bout de ces 10 milliards. C'est des faux 10 milliards d'économies parce qu'en cours d'année, les administrations ont toutes les bonnes raisons pour récupérer plus milliards.
Il y a une grande partie de ces 10 milliards qui sont factices parce qu'on prétend vendre des immeubles, c'est pas dans le déficit. On dit à un certain nombre d'administrations ou d'ODAC, limitez votre trésorerie, mais ça n'a rien à voir avec les dépenses et la trésorerie. Donc des 10 milliards en question, il y en a peut-être 5 seulement qui sont vraiment du déficit.
Jean-Marc, je suis d'accord avec vous, Michel Sapin, reconnaissez quand même qu'il y a, et ça c'est nouveau, une divergence de stratégie en matière de couverture de ce déficit au sein même de l'exécutif. Hein ? On a quand même la nette impression que l'équipe de Bercy s'est aperçue, peut-être un peu tard, qu'il lui fallait trouver des économies à faire pour pouvoir passer justement les agences, Bruxelles, etc. Et parallèlement, l'Élysée et Matignon se sont aperçus qu'ils ne pouvaient pas politiquement supporter les conséquences d'un rabotage ou d'un plan d'austérité que vous craignez.
Je ne suis pas forcément désaccord, mais est-ce que je peux me permettre de garder ça pour mon coup de gueule ?
Ah ben bien sûr, mais vous en parlerez dans un instant. Oui. Non, moi je voulais avoir sur ma question, est-ce que c'est un directeur financier qui applique la politique du président ou est-ce que c'est...
Évidemment, dans un système français, quand il y a une majorité qui est celle du président, c'est pas le président, il n'a aucun pouvoir, c'est le président qui va orienter et décider. Donc c'est d'ailleurs un peu pourquoi je trouve assez désagréable la situation d'un président qui va faire des reproches à quelqu'un d'autre alors que c'est lui qui est le seul responsable évidemment
de la situation d'aujourd'hui. Une minute, parce que parmi les autres chiffres que nous a donné Bruno Le Maire, il y a les prévisions de croissance. Donc Bruno Le Maire nous dit on fera 1% de croissance cette année, on fera 1,4% de croissance l'an prochain, on fera 1,7% en 2026 et on fera 1,8% en 2027. Mais à une époque où les prévisions deviennent de plus en plus aléatoires, comment est-ce qu'on peut s'avancer à
donner toujours comme ça.
Moi, je le.
Quand vous regardez le passé, c'est toujours comme ça. On fait toujours une prévision sur laquelle, dans 3-4 ans, on va avoir une forte croissance qui va compenser la faiblesse de la croissance que nous avons aujourd'hui. Et par ailleurs, il y a également, de manière symétrique, on va faire les efforts dans 2 à 4 ans qu'on n'a pas fait cette année. C'est une tradition.
C'est parfaitement vrai. Est-ce que vous savez comment les statisticiens appellent ça ? Le cumul des courbes des annonces de croissance. Ils appellent ça la crête des Iroquois. Parce que ça vous fait une sorte de crête, mais qui sont toujours faux. Donc, quand vous voulez rétablir vos comptes et afficher que vous les rétablissez, c'est le sujet d'aujourd'hui, afficher auprès soit des agences, mais surtout auprès de Bruxelles aujourd'hui, eh ben vous faites toujours une croissance qui va monter. Et toujours des économies qui vont être plus importantes demain, ça vous avez parfaitement raison.
Donc vous avez fait des trajectoires sur plusieurs années avec des prévisions qui paraissaient un petit peu...
Mais vous savez, ce que disait, les prévisions c'est quand même assez difficile à faire.
Voilà. Disons que ce sont des projections.
Ce ne sont pas des prévisions
faites par des économistes. Et l'OFCE pour l'année 2024 a dit 0,5 et non pas 1%.
Je pense que vous êtes... plus dans la vérité.
0,5 plus qu'1% à la fin de
plutôt que 1%. Voilà.
Et ça coûte beaucoup, 0,5 de
bien
différence.
Ça coûte beaucoup. On peut quand même espérer que dans les 4 ou 5 ans qui viennent, les facteurs géopolitiques qui plombent complètement l'activité aujourd'hui,
soient résolus. Non, mais on peut l'espérer. La difficulté, c'est de faire des budgets fondés sur des espérances.
Et bien Bruno Le Maire vient d'en avoir avec des chiffres et des espérances, en l'occurrence. 19h30 sur BFM Business.
BFM Business présente Good Evening Business, les experts du soir.
Allez, 19h34, ils sont là jusqu'à 20h, nos experts. Jean-Marc Sylvestre est avec nous, Henri Sterdignac est avec nous et Michel Sapin est avec nous. Alors, on voulait dire un mot de ce qui s'est passé la nuit dernière, un petit peu avant 3h du matin, apparemment, la négociation sur l'emploi des seniors qui a capoté au siège du MEDEF. Voilà, on s'est dit au revoir gentiment entre patronat et syndicat. Écoutez, ce que disait ce matin Patrick Martin, auditionné au Sénat, le patron du MEDEF, le dit clairement, il y avait pas d'accord possible pour lui sur le sujet. Écoutez.
N'a pas abouti. Pourquoi ? Parce que, en particulier, la CFDT FO, avec qui nous avons une bonne relation, je tiens à le dire, on n'est pas du tout dans un pugilat, ont dans la dernière ligne droite beaucoup insisté pour que soient améliorés ou aménagés les régimes des retraites progressives. Il se trouve que la lettre de cadrage que nous avait imposée le gouvernement interdisait toute dépense supplémentaire. Or, ce dispositif, si on avait donné suite aux demandes donc de ces deux
organisations syndicales, ce dispositif aurait généré des surcoûts. Donc c'était inconcevable. Donc voilà, cette négociation n'aboutira pas.
Voilà, ça veut dire qu'entre la négociation sur l'assurance chômage et cette séquence de 3 mois et demi sur l'emploi des seniors, 8 mois de discussion pour rien. Pour rien, finalement, pour arriver à aucun résultat. Et on va repartir à zéro avec l'État qui va reprendre la main ou tout du moins redonner une lettre de cadrage sur le sujet. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette séquence, finalement, Henri Sterdyniak? Est-ce qu'on a raté encore l'occasion de faire émerger ce vrai sujet de l'emploi des seniors en France, qui est pourtant un vrai sujet?
Il faut quand même rappeler que l'emploi des seniors s'améliore de façon tendancielle en France. En 2013, on avait 47% des 55-64 ans qui travaillaient. Maintenant, on en est à 59%. Donc, il y a quand même eu un progrès assez net, malgré la crise, etc. Les seniors travaillent de plus en plus. Il y a quand même une sorte d'accord pour dire il faut absolument que maintenant, dans les entreprises de plus de 300 salariés, on se mette autour de la table et qu'on définisse une stratégie de l'entreprise pour garder le plus longtemps possible les seniors. Donc quand même, ça, on peut dire ça avance. Le fait qu'effectivement, les avantages en matière d'indemnisation du chômage des seniors vont être reculés de 2 ans, grosso modo, c'est acquis. Le problème, c'est qu'il faut... le gouvernement veut en faire trop. On ne voit pas très bien ce qu'il va proposer de plus sans mettre en difficulté un certain nombre des seniors qui ont du mal à retrouver un emploi. Et les propositions du MEDEF n'étaient pas acceptables.
C'était
quoi.
Le grand écart entre le MEDEF qui agitait la menace du CDI senior. Et les syndicats qui voulaient parler retraite progressive. Est-ce qu'il pouvait y avoir un accord sur le sujet, un dénominateur commun, Michel Sapin, finalement, dans cette histoire?
Sur la méthode, je pense que c'est le président du MEDEF qui a raison. C'était une négociation pipée à l'avance et pas pipée par les partenaires sociaux.
C'est pas la première du genre qui est pipée à l'avance.
C'est peut-être pas la première du genre, mais c'est devenu une habitude systématique avec Emmanuel Macron. Si je puis me permettre, là aussi, j'ai connu d'autres périodes où on laissait de la liberté aux partenaires sociaux pour discuter. Je ne sais pas si tout le monde a compris ce que voulait dire lettre de cadrage. Il a dit, Martin, il y a une lettre de cadrage.
Ça rappelle le revolver sur la tempe, comme disent certains partenaires sociaux.
Le Code du travail dit que sur un certain nombre de sujets qui touchent au Code du travail, les partenaires sociaux doivent obligatoirement, ou plutôt l'État doit obligatoirement demander aux partenaires sociaux de négocier. Mais après, il a pris l'habitude, je sais parce qu'on a écrit des lettres de cadrage, il a pris l'habitude, en particulier de plus en plus là, de mettre tellement de conditions à la négociation que la négociation devient impossible. C'est ce qui s'est passé. Parce que je pense qu'il y avait de la bonne volonté des deux côtés, qui se traduit d'ailleurs souvent dans les entreprises elles-mêmes. Il y a un discours qui est commun. Mais c'était impossible compte tenu des conditions qui avaient été imposées par le gouvernement. Donc il ne faut pas dire c'est incroyable, ces partenaires sociaux qui ne sont même pas capables de négocier. Non. Négocier quand les contraintes de la négociation sont trop importantes, c'est juste amuser la galerie. Ils ont été obligés de le faire.
L'État va reprendre la main et va revenir avec une nouvelle feuille de cadrage. C'est comme ça que ça va se terminer.
Non, elle ne va pas revenir avec une feuille de cadrage. Il va revenir avec des décisions. Oui. Puisque une fois que la négociation échoué.
On donne plus sa chance au paritarisme. C'est terminé.
Et on lui donne de fausses chances. parce qu'on est obligé de le faire, le Code du travail, et on le torpille par ailleurs.
D'accord. Jean-Marc.
Non, mais je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit et notamment ce que Michel Sapin vient d'expliquer. On a en théorie une volonté d'installer une culture du compromis dans ce pays avec du paritarisme, avec des négociations. Et le paritarisme, c'est quand même à la base qui date de l'après-guerre sur laquelle fonctionne notre modèle social normalement. Hein. Et puis il y a des gouvernements, c'est vrai, qui théoriquement devraient être libéraux, en fait sont très dirigistes en la matière pour empêcher le paritarisme de respirer, parce que c'est bien ça, la lettre de cadrage qui empêche de respirer. Alors peut-être que c'est cynique, il y a du cynisme derrière tout ça, c'est que derrière tout ça, il y a un enjeu, il y a quand même une cagnotte. L'État a besoin d'argent. Je m'aperçois que là, il va
récupérer... qu'on est sur 250 et 300 milliards d'euros de prestations sociales dans le cadre de...
Il va sans doute récupérer 500 millions d'économies.
500 millions d'euros d'économies, ça fait rire Henri.
Parce que d'une part, il faut être clair, Macron et Bruno Le Maire ne sont pas des partisan du paritarisme. Au contraire, je veux dire, Macron a tout fait contre le paritarisme et Bruno Le Maire a dit il faudrait absolument, il faudra un jour étatiser l'UNEDIC. Donc, un, ils ne sont pas du tout dans l'optique paritarisme, et d'autre part, bon, bah, les 500 millions dont vous parlez, c'est complètement, c'est rien du tout, hein, l'UNEDIC. Oui, l'UNEDIC est actuellement excédentaire. Oui, voilà. Et le problème, on peut dire, du gouvernement, c'est d'éviter que ces excédents soient redistribués soit aux chômeurs, soit aux patrons. Voilà, c'est tout. Bon,
c'est une histoire de 1 milliard. C'est pas le seul exemple. On a un débat souterrain et parfois public autour de l'AGIRC et l'ARCO, qui est de la même nature.
Oui, c'est l'AGIRC et l'ARCO, c'est du paritarisme pur.
C'est du paritarisme qui fonctionne très bien.
Et ils ont même une cagnotte. C'est pas une cagnotte.
Mais non.
C'est parce qu'ils voient l'avenir et ils savent que dans l'avenir, ils auront besoin de cette.
Ça fonctionne très bien.
Ah. Et là, il y a, bon, l'UNEDIC, l'AGIRC et l'ARCO fonctionnent très bien. L'UNEDIC est excédentaire aussi.
Il y a consensus ce soir, les masques tombent, le gouvernement veut mettre à terre le paritarisme.
On va le dire autrement, c'est lui le responsable de l'échec de cette négociation.
Vous voulez, moi,
pour arrêter de tirer dans les pattes de ces pauvres partenaires sociaux qui n'y peuvent pas grand-chose.
Bien, écoutons Stanislas Guérini. Donc, c'est la petite phrase qui a fait beaucoup causer aujourd'hui le ministre de la Fonction publique qui l'a dit ce matin, ministre de la Fonction et de la Transformation publique, qui dit qu'il faut mettre fin au tabou du licenciement dans la fonction publique. Il faut juste apprendre, il a tempéré ça, à mieux sanctionner les insuffisances professionnelles des fonctionnaires. Voilà comment il a habillé ça ce matin. Écoutez, le ministre.
Le statut de la fonction publique, c'est la garantie de l'emploi. Moi, je ne souhaite pas le remettre en cause. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans la fonction publique, quand, par exemple, on supprime un service administratif, les agents publics, on leur confie une autre mission. Pour ainsi dire, il n'y a pas de licenciement économique dans la fonction publique et je ne souhaite pas changer ça. Je pense que c'est statutairement quelque chose qui est très important et qui distingue le public du privé. Mais le statut n'a jamais expliqué, jamais, pas même en 1946 quand il était instauré, qu'on ne pouvait pas avoir de conséquences, qu'on ne pouvait pas licencier quelqu'un qui ne fait pas bien son travail.
Le licenciement pour insuffisance professionnelle existe déjà.
Il y a cet outil-là, il est très mal défini et il est surtout extrêmement peu appliqué.
Alors, comme cet outil existe déjà, je vous demande ce que vous en pensez dans un instant. Faut-il effectivement le clarifier ? La première question que je me pose, c'est pourquoi dire ça maintenant ?
Bah, écoutez, où il fait vraiment de la politique et de la provocation, il a rien compris au film, parce que en fait, c'est vrai que ça existe. C'est vrai que le problème principal de la fonction publique, c'est pas le problème du licenciement, c'est surtout le problème de son efficacité.
13 agents licenciés en 2022.
Ce qui m'inquiète d'ailleurs dans ses propos, et j'avais pas retenu que la première fois que je l'ai entendu, c'est qu'il a dit il y a pas de licenciement économique dans la fonction publique.
Non,
c'est
il ne veut pas parler de licenciement
économique. C'est dommage, parce qu'il y a des administrations dont on sait qu'elles ne servent pratiquement à rien aujourd'hui. Donc il faut organiser la mobilité et la...
Mais il peut y avoir des ruptures conventionnelles dans la fonction publique maintenant.
Non, je crois que c'est pas le...
Ouais. Ah si. Si un service ne sert à rien, on peut proposer effectivement une rupture conventionnelle aux agents.
Comment mettre le feu finalement à un truc qui...
Ce que je ne comprends pas, qui a été également mise du budget. Je comprends parce que chacun peut faire des erreurs et là c'est une erreur. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas dit uniquement ce qu'il vient de dire ce matin, qui est une reculade évidemment par rapport. En tous les cas, dans les mots, ce qu'il avait dit, le tabou. Il n'a pas dit qu'il y avait un tabou. Il a dit que c'était dans la fonction publique.
Il dit
que c'était comme ça depuis 1945. Bon, bref, le tabou, il était avant 1945, alors si je comprends bien. Donc, je ne comprends pas du tout pourquoi cela. Soyons clairs. Moi, je suis pour une évolution de la fonction publique. Je pense qu'on ne peut pas dire que la fonction publique d'il y a 20 ans doit être la même que celle qu'on va avoir aujourd'hui ou demain. Qu'il y a des nouveaux métiers qu'on ne connaissait pas, en particulier, des métiers dans l'informatique, etc., qui deviennent absolument très importants. J'ai connu un ministère qui a su faire des sacrées transformations, y compris en termes de diminution de ses fonctionnaires, qui était le ministère des Finances, et qui a son propre service informatique, qui le fait fonctionner lui-même, et qui ne va pas chercher les conseils de KPMG, de tel ou tel organisme qui est extérieur. Donc, on peut le faire. Simplement, juste une chose. Un fonctionnaire, c'est quoi ? C'est quoi la masse des fonctionnaires ? C'est les profs. Il faut licencier les profs. J'ai cru comprendre qu'il fallait en embaucher de plus. Si un prof fait une erreur, ça, bien sûr, une faute. C'est la police, c'est l'armée, Dans l'armée, il y a des mécanismes d'ailleurs de gestion.
On a l'impression que ce qui est dans le viseur, c'est surtout les collègues.
Rien. En fait, au bout du compte, on croit qu'il y a des fonctionnaires qui font pas grand-chose avec un crayon dans l'oreille et qui attendent la fin de la journée. Mais on croirait être au 19e. Donc c'est nourrir des fantasmes inutiles. Le problème, c'est dans un débat qui devrait être de qualité.
Le problème, c'est qu'actuellement, le problème, c'est quand même d'attirer des gens aussi bien dans les hôpitaux,
70 000 postes dans les écoles, dans la fonction publique aujourd'hui.
Il faut augmenter, il faut attirer les gens dans les hôpitaux et les écoles. C'est pas en faisant ce genre de discours que on va attirer les gens. Et par ailleurs, le problème des licenciements dans la fonction publique, c'est comme dans toutes les grandes entreprises, on essaye de le faire. Quand il y a des gens vraiment très mauvais qu'on peut effectivement licencier, on les licencie. Quand c'est des cas sociaux, ça arrive aussi. On essaye toujours de gérer ça avec diplomatie, mais c'est pareil, je pense, dans toutes les grandes entreprises.
13 agents de la fonction publique licenciés en 2022 pour insuffisance professionnelle, 222 fonctionnaires révoqués pour faute en 2022. Oui, Jean-Marc, pardon, je prenais ce chiffre.
Oui, non, mais je pense que derrière tout ça, il aurait mieux valu qu'il parle des problèmes de management de la fonction publique, des problèmes d'organisation, de travail. La culture de l'efficacité n'est pas au cœur du fonctionnement de la fonction publique aujourd'hui. Et ça, on l'a perdu beaucoup.
On a perdu, je ne suis pas sûr qu'on l'ait jamais eu, mais en tous les cas, je ne suis pas du tout opposé au discours de l'efficacité.
Non, mais je ne suis pas du tout opposé. L'efficacité, la performance, après, la rémunération qui va avec.
Après, l'efficacité et la performance ne se mesurent pas exactement de la même manière dans un service public que dans une entreprise privée. Enfin, voilà, juste. Ce n'est pas les mêmes critères.
Elle peut se mesurer.
Elle peut se mesurer. C'est pas facile de regarder la performance d'un prof, ou la performance d'un flic.
On a le sentiment
très
facile. Sortie que
la médecin et d'une infirmière.
Et
d'une aide-soignante.
On a quand même l'impression dans la petite sortie, c'est un jour que la catégorie d'agents de la fonction publique est dans le collimateur, ce sont les agents, les employés des collectivités locales. Ouais. Ah
oui,
on sent quand même que c'est là, effectivement,
qu'ils attaquent. Il y a une surpopulation,
Une surpopulation.
C'est la seule partie de la dépense, enfin, des personnes publiques qui ne soit pas déficitaire. Oui, il n'y a pas de déficit. Étonnant, hein ? Mais non, il n'y a pas de déficit. Les collectivités territoriales n'ont pas de déficit, ça leur est interdit. Il n'y a pas de déficit
courant.
Il faut le savoir.
Il n'y a pas de déficit courant.
Bien.
Pas de déficit.
Est-ce que
juste ce que je dis est exact. Oui. Il n'y a pas de déficit. Le déficit de la nation, vous avez zéro pour les collectivités territoriales et vous avez des chiffres considérables pour les régimes sociaux et pour l'État.
Parce que l'État met au pas
pour les collectivités.
L'État ajuste.
Parce que l'État ajuste, c'est ça que voulait dire Jean-Marc Sylvestre. Bien. Est-ce que cette petite phrase de Stanislas Guérini a été la goutte qui a fait déborder le vase ? Il se trouve qu'en fin de matinée, la CGT a confirmé qu'elle avait déposé des préavis de grève dans la fonction publique. Ça va commencer lundi prochain, 15 avril, et ça va aller jusqu'au 15 septembre. Écoutez, Céline Verzeletti pour la CGT ce midi.
Des préavis de grève qui sont déposés pour toute la fonction publique concernant les trois versants, c'est-à-dire tous les agents de la santé, des collectivités territoriales et de l'État. Donc ça permet aux 5,7 millions d'agents de la fonction publique de pouvoir exercer leur droit de grève, ça c'est une première chose. Et ensuite, ça couvre donc toute cette période pour différentes initiatives, pour différentes mobilisations et pour différentes journées de grève. Et aussi parce que ceux qui vont être mobilisés pour les JO sont tout autant méprisés puisqu'il n'y a pas suffisamment de mesures d'accompagnement pour ceux qui vont travailler tout cet été pour justement que les Jeux Olympiques puissent se passer correctement.
Bon, on ne peut pas dire que les syndicats avaient prévenu, la CGT mobilisée depuis un certain temps sur ce sujet, Force Ouvrière aussi. La CFDT, l'UNSA, disent pour l'instant il n'est pas question de gâcher la fête. Voilà. Mais la CGT dit qu'il n'y aura pas de trêve olympique.
Ça ne vous a pas échappé qu'il y avait quand même deux cultures différentes dans le syndicalisme français.
Oui, bien sûr. Mais voilà,
une culture de responsabilité et de compromis et puis une culture de conflit. Et du coup, la CGT, je ne suis pas sûr qu'elle sorte gagnante aux prochaines élections professionnelles. Elle en perdra encore. Elle a déjà perdu sa place de premier rang avec une politique aussi radicale que celle-là qui met la population et l'opinion publique contre elle. Je comprends pas.
Henri Sterdignac.
Disons que c'est un peu un dévoiement de la notion de annoncer une grève, quoi.
C'est l'arme nucléaire, la grève.
C'est quand on prend une période si longue, c'est quand même pas du jeu.
15 avril, 15 septembre. Fin des Jeux Paralympiques.
C'est un peu préavis. C'est pas comme ça, normalement, que devraient fonctionner les préavis.
Non, mais ce ne sont que des préavis.
Quoi ?
Ce
ne sont pas des préavis. Le préavis, c'est quand on dit, voilà, effectivement, dans telle entreprise, on est mal. Dans telle entreprise publique, on est mal récompensé dans des efforts qu'on fait pour le JO. Donc, une semaine avant, on fait un préavis. Ça se comprend. Quand c'est sur une si longue période, c'est un peu difficile.
Michel Sapin, est-ce que le gouvernement ne paye pas cette séquence, effectivement, les déclarations.
On est tellement habitué dans ce pays
du ministre,
à sortir le carnet de chèques pour calmer un mouvement social.
Deux choses. Comme les règles de la fonction publique ont changé, et en particulier sur la question de la grève, on est obligé aujourd'hui de déposer un préavis pour pouvoir faire grève. Avant, il n'y aurait pas eu de préavis, et ils seraient tombés en grève d'un seul coup. Donc, juste qu'on sache pourquoi ça fonctionne, c'était justement pour essayer de temporiser et ouvrir une période éventuellement de négociation avant d'avoir la grève. Après, ça c'était une bonne manière de faire. Après, il y a la mauvaise utilisation, et je rejoins les uns et les autres, du préavis. Et au fond, oui, je pense que la CGT ne sortira pas grandie de ce type d'annonce. Après qu'il y ait des grèves pendant la période, pourquoi pas, ça fait partie du droit absolu. Et objectivement, je préfère la manière de faire de la CFDT sur un sujet comme celui-ci. Et Jean-Marc a raison de le dire. J'étais ministre du Travail lorsque la CFDT est passée devant la CGT, et non seulement la CFDT est passée devant la CGT, mais au moment où les syndicats dits réformistes sont devenus majoritaires en France. Donc on parle beaucoup de la CGT, qui est une grande organisation syndicale, avec des gens tout à fait respectables et beaucoup de militants, mais c'est pas ça le vrai visage du syndicalisme français.
Mon sentiment, mais je me trompe peut-être, c'est que la CGT est très implantée dans les clubs sportifs en France, dans les associations sportives. Ils ont des jeunes, ils ont des enfants, ils cotisent, etc. Moi, j'ai l'impression que toute cette population-là, elle attend les Jeux Olympiques. Elle attend le spectacle des Jeux Olympiques.
Donc la CGT se tire une balle dans le pied, là, c'est ce que vous êtes en train de nous dire.
Je pense que la CGT va subir une pression de sa base pour pouvoir se calmer un petit peu.
Il peut y avoir, à cette occasion, des JO, effectivement, un certain nombre de personnes qui ont des raisons légitimes de protester, en particulier les bénévoles à qui on demande de payer le transport et le logement et le repas du soir ont des raisons légitimes. Oui, j'en suis sûr. Et puis, c'est ce qui se dit. C'est la réglementation, c'est ce qui a été décidé. Voilà. Lisez l'Humanité ce matin sans vouloir faire de la publicité. Par ailleurs, il peut y avoir effectivement dans certaines administrations des efforts demandés et mal rémunérés. Mais bon, pour l'ensemble, c'est un peu trop.
Allez, ça commence lundi prochain, en tout cas, ces préavis de grève de la CGT. 3 minutes encore pour vos extra time. Vos coups de gueule, coups de cœur, ce soir, sur 30 secondes, évidemment. C'est la règle impitoyable de cette émission. Henri, tiens, puisque vous aviez la main, est-ce que vous voulez commencer ? 30 secondes, Henri.
30 secondes. Moi, ce qui m'a énervé, c'est Monsieur Éric Ciotti qui a dit on va supprimer les cotisations salariées et ça va permettre d'augmenter les salaires, les plus bas salaires. Alors non, c'est pas possible parce que les cotisations sociales salariées, c'est uniquement maintenant des cotisations retraite. Donc on peut pas les supprimer parce que ça mettrait les régimes de retraite en difficulté. Et par ailleurs, il est normal que les gens cotisent pour leur retraite et ainsi la retraite, c'est un droit et non pas une prestation d'assistance.
Et voilà le coup de gueule de ce soir d'Henri Stadignac en 30 secondes. Jean-Marc, est-ce que vous voulez suivre
En 30 secondes, moi, j'ai été interpellé par les records que battent l'or sur le marché international. Ça va faire la 9e séance consécutive au cours de laquelle on bat le 9e record historique. Avec l'once d'or à 2300 dollars, un lingot à 70 000 euros, qui vaut à peu près le même prix que le Bitcoin d'ailleurs.
C'est vrai.
Il y a une indexation. Alors que la situation, bien sûr, géopolitique est inquiétante, mais que la situation économique, elle n'est pas très inquiétante. La situation de la bourse, ce n'est pas inquiétant. Alors, qu'est-ce qui fait ? Quelle est la raison ? La raison, c'est la Chine. La Chine qui est inquiète, et les Chinois qui sont inquiètes, et qui se mettent à emmagasiner de l'or, à acheter de l'or, mais la Banque centrale de Chine aussi, elle en a acheté pour 200 tonnes l'année dernière.
Pour réduire la dépendance au dollar, évidemment.
Oui, mais non, mais parce que... Ils ont peur.
Michel Sapin, votre coup de gueule ou coup de cœur, je ne sais pas, sur 30 secondes.
Alors, j'ai pas compris si c'était un coup de gueule ou un coup de cœur de la part de Jean-Marc.
Ah non, il est extasié, c'est un coup de cœur.
Mais moi, j'aurais voulu un coup de cœur, parce que j'aime bien les coups de cœur, mais je suis obligé de pousser un coup de gueule.
Allez-y.
Je reviens au début de cette émission. Je lis, dans des journaux bien informés, que Emmanuel Macron a poussé un coup de gueule contre son ministre des Finances, qui aurait, paraît-il, tout d'un coup découvert qu'il y avait un déficit, comme si Emmanuel Macron ne s'en était pas rendu compte. Et donc, je reviens à la question que vous posiez. Est-ce que le ministre des Finances, c'est lui
qui va ordonner la grande politique de la France dans un système comme celui-ci. Donc le premier responsable, c'est Macron. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas poussé un coup de gueule contre lui-même ?
Il ne sera donc qu'un directeur financier d'Emmanuel Macron, c'est ça que vous nous dites.
Nous sommes d'accord.
Voilà le coup de gueule ce soir de Michel Sapin. 19h55, c'est terminé. Merci messieurs, merci beaucoup d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Jean-Marc Sylvestre, Michel Sapin et Henri Sterdignac, à très vite avec plaisir pour de nouvelles aventures. 19h55, on se retrouve demain à la même heure dans un instant Tech & Co avec François Sorel qui recevra notamment Erwan Morteau, le DG France d'Intel. Et nous, on se retrouve demain à 18h. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.